Hugues et son épouse, qui nous a fait le plaisir de venir avec. On a voilà, le plaisir de rencontrer. On s'est croisés apparemment au point du jour dans les années 82-83. On vient de découvrir ça. Donc on a des points communs, voilà, et on a peut-être d'autres d'ailleurs qu'on découvrira. Mais en tout cas, on est heureux de pouvoir démarrer cette. Alors, il y a aussi une sœur qui fait partie de l'église d'Élim de Paris, hein, c'est ça. C'est Grâce, hein, si je. Grâce, voilà. Mais par contre, elle habite au Mureau. Donc, comme le frère Boniface, hein, voilà, qui est derrière toi, qui habite au Mureau aussi. Voilà. Donc, il y a aussi des liens, voilà, d'église Élim. Hein. Donc, il y a Gilles qui fait partie de cette. C'est une fédération, hein, c'est ça? Une union. Voilà, parce qu'il y a union, fédération, réseau, on s'y perd un petit peu. Voilà, de l'église d'Élim, donc on te salue chaleureusement. Voilà, c'est un réseau, voilà, on commence à se connaître un peu dans la région aussi par rapport à d'autres églises. Et voilà, je voudrais qu'on puisse prier pour que tout ce week-end, donc cet après-midi, demain, on enregistre pour que des personnes qui ont demandé à suivre, bien puissent aussi avoir cet enseignement sur cet après-midi et demain. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore la possibilité cet après-midi et demain de pouvoir nous placer devant ta parole, cette parole qui est éternelle, cette parole, Seigneur, Seigneur, est le fondement de notre foi. Nous te remercions pour, Seigneur, le frère que tu as suscité pour enseigner, former, Seigneur, les serviteurs de Dieu et les servantes, Seigneur, pour les équiper pour l'œuvre, hein, du ministère. Seigneur, nous te bénissons pour Jean-Hugues qui va nous apporter, Seigneur, ta parole durant ce week-end. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Te prions de nous ouvrir, Seigneur, à ta parole, pas simplement d'être, Seigneur, au bénéfice d'une connaissance, mais surtout de ta présence. Seigneur, c'est ta présence qui vraiment change les choses et, Seigneur, nous redonne une dimension, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Nous te louons pour cela et te disons que toute louange, toute reconnaissance te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, et je laisse la place à Jean-Hugues.
Voilà, alors merci pour l'invitation et je suis heureux d'être ici à Paris, dans la région parisienne, pardon, excusez-moi, j'ai fait déjà un appel. Mais vu de Marseille, ça ressemble à Paris. C'est encore l'Île-de-France, voilà, c'est ça. Et puis surtout Elisabethville, parce que ma femme s'appelle Elisabeth. Je lui ai dit, écoute, regarde, il y a même une ville à ton nom, quand même. Oui. Donc, j'étais content qu'elle soit venue. Mais voilà. Plus sérieusement, donc nous, c'est vrai, on est de Marseille depuis combien? 16 ans maintenant. Donc, on n'est pas vraiment de Marseille, dans le sens que vous sentez bien que l'accent n'est pas tout à fait encore. On ne s'est pas encore adapté à l'accent. Mais on travaille dans cette ville depuis 16 ans parce que le Seigneur nous avait mis à cœur d'aller dans le sud pour s'occuper aussi de toute la moisson de Dieu parmi dans le monde musulman. Et en même temps, on a fait de l'enseignement, de la formation depuis des années. Et c'est aussi à ce titre que Gilles, le pasteur Gilles de Yvetot, a proposé à votre pasteur que je puisse venir. Et j'étais un peu impressionné par l'affiche qui parlait de séminaire leadership, parce que vous savez, personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, le mot leadership m'a toujours fait un peu peur. Oui. Mais je vous dis ça pour vous mettre à l'aise. L'idée, c'est quoi? Donc, j'ai dit à votre pasteur, est-ce que je pourrais pas parler aussi du disciple? Mais il était tout à fait d'accord avec moi. Mais l'idée, c'est pas de jouer sur les mots, etc. L'idée, c'est de savoir comment le mieux possible servir Dieu dans notre génération et que le plus grand nombre soit sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Au fait, c'est ça le plus important. J'avais fait partie pendant toute mon enfance d'une dénomination qui s'appelait l'Église apostolique. C'est une toute petite dénomination pentecôtiste dans laquelle on insistait beaucoup sur les apôtres, les prophètes et tous ces ministères. Et donc pendant toute mon enfance, j'ai entendu parler des apôtres, des prophètes, des vous voyez, tout, les cinq ministères d'Éphésiens 4, 11. C'était le... Et un jour, j'ai eu le privilège, en tant que traducteur, c'est très intéressant d'être traducteur parce que comme ça vous allez voyager, je traduisais pour mon pasteur qui m'emmène en Australie pour une conférence mondiale des apostoliques. En France, il n'y a pas beaucoup d'apostoliques, mais dans d'autres pays, ils sont très nombreux. Et là-bas, les Australiens nous disent, vous savez, nous, cette affaire des ministères, bon, oui, mais ce qui nous intéresse, c'est la moisson. C'est de gagner les âmes. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, ah, mais c'est ça la vision, en fait. La vision, c'est pas les ministères, c'est pas les leaders. La vision, c'est les perdus. C'est ceux qui doivent être gagnés pour l'évangile. Et dans ce travail de la moisson, automatiquement, si les moissonneurs se mettent à travailler ensemble, il va falloir qu'ils s'organisent. D'accord? Et donc, on va désigner des chefs, on va désigner des domaines de travail, etc., pour pas qu'on se marche dessus. Et donc, on va parler de leaders. Mais le but, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Donc là, on est passé devant l'usine Renault, c'est grand, hein. Bon, je savais que ça existait, mais c'est quand même... C'est impressionnant, les bâtiments qu'il y a ici. Et je suppose, même si maintenant beaucoup de choses sont automatisées, qu'il y a encore des ouvriers, qu'il y a encore... Donc, il y a un peuple qui a besoin de l'évangile. Et qui est nombreux, et donc il y a un travail à faire. Je voulais juste vous dire ça, parce que c'est bien que notre vision, dans notre cœur, que notre objectif, ce soit pas sur quel barreau de l'échelle je me trouve, d'accord ? Mais quel que soit le barreau de l'échelle sur lequel je me trouve, le but, l'objectif, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. C'est que Dieu soit glorifié. D'accord ? Ça, c'est très important. À partir de là, si on a ce cœur, si on a ce feu à l'intérieur, eh bien, on arrivera plus facilement à se mettre d'accord sur la manière de faire les choses. Vous voyez ? Très bien. Pourquoi j'aimerais insister sur le mot disciple ? C'est parce que... Je vous donne un exemple. Je vais juste chercher le... Ah oui, c'est ça, c'est là, merci. Vous voyez, moi j'aime bien écrire, c'est une déformation. Alors nous faisons à Marseille, nous faisons des cours d'alphabétisation et de français pour les mamans du quartier, comme on dit là-bas. Quand on dit les mamans du quartier, c'est... Vous savez, je travaille dans un quartier où il y a 98% de musulmans qui viennent un peu de tous les pays, mais spécialement du Maghreb, et dont beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'apprendre le français, ou alors ils le connaissent oralement, mais n'ont pas l'écrit. Et donc, on a à peu près une quarantaine de personnes, beaucoup de femmes, et on fait ça deux fois par semaine, et c'est une occasion pour l'évangile. C'est une occasion. Et donc, on a un groupe qui serait... Enfin, on leur a proposé... Le jeudi à 11h, après les cours de français, ceux et celles qui veulent de participer à un groupe de biblique de découverte. Vous connaissez un peu cette façon de faire. Vous ouvrez la Bible, et puis vous prenez un texte, et puis les gens ont le droit de commenter, de dire ce qu'ils pensent, de poser leurs questions. Vous voyez, c'est assez ouvert, mais on prie avant. Ensuite, on leur demande quels sont leurs besoins dans la prière. Et ces musulmans, ces musulmanes acceptent. Ils viennent, ça les intéresse. Donc il y a une dizaine sur les 40 qui viennent chaque matin. Il y en a une dizaine qui suivent, à peu près 10, 12 qui suivent cette découverte de la Bible. Et donc, j'ai l'habitude d'enseigner tout le temps. Vous voyez, et j'ai toujours un stylo dans la main. Bon, je vous dis ça pour qu'on se connaisse un peu mieux, que vous soyez un peu détendu. Et que moi aussi, je sois un peu détendu. Ça va, vous êtes, je vous trouve très très sérieux. C'est parce que je viens de Marseille. J'ai l'habitude qu'à Marseille, il y a toujours des vous savez, il y a toujours des histoires. Il y a toujours quelque chose qui se passe, hein, à Marseille. C'est pas toujours des bonnes histoires, mais des histoires, il y en a en tout cas. Un jour, j'ai entendu un évangéliste mondialement connu qui a eu un succès énorme dans son ministère, une onction extraordinaire, des miracles, et quelqu'un de très connu qui disait il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'ai été un évangéliste, j'ai été un revivaliste, enfin j'ai exercé mon ministère, j'ai voyagé partout, il a pouvait réunir des milliers de personnes, mais je n'étais pas un disciple. Et aujourd'hui, la seule chose qui compte pour moi, c'est d'être un disciple. Et j'étais un petit peu en colère quand il a dit ça, un tout petit peu en colère, en disant, bah, quand même, tu prêches à des milliers de personnes depuis 30 ou 40 ans, et c'est maintenant que tu te dis, en fait, le plus important, c'est d'être un disciple. Mais ce n'était pas de sa faute, c'est la formation qu'il a eue. C'est l'aspirateur, vous savez, c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, l'aspirateur du succès, de la méthode, vous savez, c'est une grosse machine, hein, ce genre de choses. Et vous avez des gens qui ont... Oui, alors il était très discipliné dans la prière, très discipliné dans certains domaines de sa vie, à cause du ministère, mais tout était centré sur le ministère, le succès du ministère. Et tard dans sa vie, le Seigneur lui dit, parce qu'il a vécu un crash dans sa vie, et le Seigneur lui a fait comprendre, tu n'es pas mon disciple. En d'autres termes, vous savez, Matthieu 7, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez fait des grandes choses, mais je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et donc, je ne vous connais pas parce qu'il n'y a pas cette relation de disciple avec Jésus-Christ. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Quelles que soient ensuite les choses que Dieu nous confie en termes de responsabilité, en termes de capacité, ce qui compte le plus, c'est notre relation en tant que disciple. C'est pour ça que j'aimerais commencer avec ça aujourd'hui, sans pour autant négliger l'aspect responsabilité. Donc la vie intérieure est cachée, c'est la vie du disciple. Hein. Alors en termes de... Vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça, on fait la différence entre chrétien et disciple. Dans la Bible, l'église de Jésus-Christ, l'église des Actes des Apôtres, le mot disciple, c'était leur mot interne. En interne, ils savaient qu'ils étaient des disciples. Mais les gens de l'extérieur les ont appelés chrétiens. Donc le mot chrétien, je l'utilise avec prudence, parce que je me dis, si je dis que je suis chrétien, mais que les gens de l'extérieur estiment que je ne suis pas un bon chrétien, c'est un mauvais témoignage. Vous voyez ? Entre nous, on doit être des disciples. Mais laissons le monde dire si vraiment ils estiment qu'on est ou non chrétien. Et vous verrez, c'est étonnant, mais le monde a beaucoup de discernement. Et ils reconnaissent les vrais chrétiens. Et ça les touche. Vous voyez ? Donc le but... Pour nous, en interne, c'est de grandir en tant que disciples jusqu'à ce qu'un jour le monde puisse dire « On reconnaît que eux, ils ont été avec Jésus. On reconnaît que eux, ils reflètent vraiment ce que nous, on a cherché toute notre vie. » Voyez ? Et là, on aura atteint le but, en bonne partie, de ce qu'on appelle une vie de disciple. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous avez une expression intéressante, c'est l'expression « les fils des prophètes ». Vous avez vu ça dans le livre de Samuel ou dans le livre des Rois. Il y a beaucoup de prophètes dans ces livres, c'est des livres très prophétiques, très intéressants d'ailleurs à ce sujet. Et il y avait certains ont appelé ça des écoles de prophètes ou des troupes de prophètes, et ils s'appelaient entre eux les fils des prophètes. Ça ne veut pas dire que leur père biologique était prophète nécessairement, mais ça veut dire qu'ils étaient disciples dans une communauté prophétique. Et Élisée, Samuel, c'est le premier, un peu, c'est celui qui... Et Samuel avait une troupe de prophètes avec lui. Et quand quelqu'un arrivait au milieu d'eux, il se mettait à prophétiser, même s'il n'était pas prophète, tellement l'onction était forte. Hein, un Saül, par exemple. Saül est-il parmi les prophètes ? Et l'expression « fils des prophètes », ça voulait dire « disciple », et ça nous ramène au fait que, bibliquement parlant, un disciple, c'est un fils, ou c'est une fille. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre maître et apprenti qui est semblable à une relation entre parent et enfant. Ça, c'est bon à savoir parce que ça veut dire qu'il y a des générations de disciples. On parlait tout à l'heure avec votre pasteur, on faisait juste connaissance. Et donc, je lui dis, ah, tu étais avec Jules Taubois. OK. Donc, moi, on a connu, certains d'entre nous ici, la génération Jules Taubois. Okay, et on les regardait comme ça, ces gens-là. D'abord parce qu'ils étaient grands physiquement, et puis parce qu'ils nous impressionnaient. Mais après, le pasteur Gilles Le Sieur me disait, oui, mais tu sais, la femme de André était dans l'église du pasteur Copain. Alors ça, c'est encore la génération avant. Vous voyez ? Donc il y a des générations de disciples. voyez ? Et dans chaque génération, il y a des gens qui vont nous marquer. Dans la Bible, il y avait Samuel. Samuel, c'était l'homme qui a marqué tout Israël. Et ensuite, David, Saül, c'était la génération après. Voyez ? C'est Samuel qui les a coachés, qui les a mis en place, qui les a oints, qui les a... Vous voyez, c'était lui. Donc il y avait la génération Samuel, et puis la génération David et Saül. Et puis David, lui, il avait des hommes autour de lui qui ont grandi avec lui, mais qu'il a formé. Ça, c'était la génération suivante. Donc il y a des générations de disciples. Si je prends l'exemple de David et de Samuel, mais après, dans la Bible, vous avez Moïse, Josué, et puis vous avez... Caleb aussi avec Josué, voyez. Et donc, il y a des générations. Alors, c'est des générations assez longues dans la Bible qui peuvent durer 40 ans, voyez. Mais il y a aussi parfois des mouvements de Dieu où il y a des générations beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dimanche prochain ici, donne sa vie au Seigneur, ok, il peut être leader dans un an. On dirait non, un an quand même, c'est pas suffisant. Mais tout dépend de la vitesse à laquelle il va grandir. Il peut être, en tout cas, responsable. Il peut amener d'autres personnes au Seigneur, s'occuper d'un groupe de maison ou je ne sais, vous voyez. Parce qu'il y a des générations qui peuvent être assez rapides. Ça ne veut pas dire qu'en un an, il saura tout faire. Mais que, déjà, en un an, il peut avoir certaines responsabilités. Parce qu'avec Dieu, les choses peuvent aller vite, vous voyez. On n'a pas besoin à chaque fois d'attendre 40 ans. En tout cas, à l'époque où on vit, vaut mieux pas. Parce que le retour du Seigneur est proche, vous voyez. Et donc, je parle de génération de disciples, l'espace-temps, bon... C'est souple, ouais, on va pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de comprendre que le mot disciple s'inscrit dans une suite de générations. Et les plans de Dieu, Dieu est la suite dans les idées, d'accord. Et Dieu travaille avec les générations et travaille de génération en génération, génération biologique, mais aussi des générations de disciples. Et donc c'est important quelque part de savoir d'où on vient. Oui, moi, je peux vous dire qui m'a formé et qui a formé celui qui m'a formé, voyez, et comment est-ce qu'il est venu au Seigneur, etc., etc. Quand j'étais avec le pasteur qui m'a formé, en l'occurrence, on passait beaucoup de temps. En fait, c'était pas un... Moi, je suis plus un enseignant, mais lui n'était pas vraiment un enseignant comme ça, voyez. Dans ce genre de comment on appelle ça, comment dirais-je, dans ce genre de contexte. Il aimait, mais c'était pas là qu'il donnait le meilleur. Mais quand on allait manger des crêpes, voyez, avec un verre de cidre, parce qu'il était d'origine normande, il fallait qu'il y ait le cidre avec, hein, sinon c'était pas... Voilà. Mais quand on allait manger des crêpes, ou bien quand on était dans le couloir de l'église, là en bas, vous savez, quelqu'un qui était en train de faire le ménage, et puis il débarquait, puis il y en a un autre, et tout à coup, il nous racontait. Et on pouvait passer une heure ensemble à parler comme ça. Il nous racontait ses souvenirs, il nous disait ses fardeaux. Et là, on était formés. Vous voyez ? Et donc, je sais d'où je viens, et lui savait d'où il venait, et ça vous donne une identité. Ok ? Ça veut dire que vous savez qui vous êtes, et vous savez quels sont les combats qu'ont mené la génération de disciples qui vous a précédé, et quand vous êtes vous-même dans le combat, vous dites « Ah, maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. » Vous voyez ? Vous suivez ce que je veux dire, hein ? Ça marche comme ça. Mais donc, un disciple, un leader, ça ne se fabrique pas dans un séminaire, en l'occurrence. Mais ne partez pas, restez quand même. mais c'est la réalité. Un leader, un disciple ne se fabrique pas dans un séminaire. Ça se fabrique pas tout court, mais ça, vous allez grandir et vivre des expériences, des batailles, voyez. Et c'est dans la bataille, c'est sur le terrain qu'il y a des... Tout à coup, et d'ailleurs, c'est dans la guerre que tout à coup, quelqu'un va être nommé. T'étais caporal, tout à coup on va te mettre une médaille, on va te dire toi t'es lieutenant, t'es général. Pourquoi ? Parce que il y a des exploits. Et avec David c'était pareil. Regardez David, il avait des hommes avec lui et il les testait. Qu'est-ce qui est prêt à venir avec moi pour aller prendre la lance de Saül ? C'était Saül qui voulait le tuer. Ils étaient en train de dormir, mais il y avait quand même des gardes. Vous voyez, c'était... Il y en a un qui a dit moi j'y vais. Cet homme qui était avec David, qui a osé traverser les lignes ennemies pour prendre la lance du roi Saül, qui était l'archi-ennemi de David, il fallait quand même, il en fallait du courage. Vous suivez ? Il en fallait. Et donc, Et ils ont réussi parce que Dieu était avec eux et il a endormi tout le monde, heureusement pour eux. Sinon, ils seraient pas là pour nous, ils n'auraient pas été là pour nous raconter l'histoire, vous voyez. Et donc, ce, je crois que c'était Abishai, je crois, qui était avec, un de ses fils de Tseruja. Et ces hommes-là, par la suite, ils sont devenus généraux dans l'armée. Mais quand il a été avec David pour prendre la lance de Saül, ils étaient tous des proscrits, des renégats, des fuites. Ils étaient en fuite, y compris David. Ils n'avaient aucun statut. Aucun statut. Vous comprenez ? Mais c'est dans ces moments de bataille, de grosse pression, de peur de mourir, de, vous voyez, où vous dites, eh ben, c'est la fin de tout. C'est dans ces moments que ces hommes et ces femmes sont sortis du lot par leur courage et par leur loyauté en disant, allez, on y va. Et à partir de là, tout à coup, sans, c'était pas besoin de le dire, c'était pas besoin de mettre des médailles ou des décorations, on savait, lui, elle, comprenez ? Donc ça, c'est important. Ça, c'est important de comprendre cette question de génération. Il y a certaines caractéristiques du disciple. Donc l'idée, oui, relation leader-disciple, c'est facile, je vous explique. Tu ne peux pas être leader si tu n'es pas disciple, et si tu es disciple, tu es nécessairement leader de quelque chose. Comme ça, ça va ? On a résolu le problème. Je prie m'excuser. Donc, deuxième chose, tout ça, c'est dynamique. C'est pas parce qu'un jour, on fait une cérémonie et que vous avez la décoration, que tout à coup, vous allez passer du point A au point B d'un seul coup. C'est quelque chose qui est dynamique, qui est en continu. On reconnaît après coup certaines choses, vous voyez, mais c'était déjà là. C'était déjà en formation. Hein. Donc ça, c'est aussi important de comprendre, c'est quelque chose de dynamique. Mais il y a certaines caractéristiques fondamentales dans la vie d'un disciple. Et je ne vais pas prendre les choses nécessairement dans un ordre qui vous paraît logique, mais peut-être la toute première chose, c'est la consécration, le fait que j'ai renoncé à tout pour suivre Jésus. Mais on reviendra sur cette question un peu plus tard dans notre formation. La première chose dont j'aimerais parler, c'est la vie de prière. On me dit, oh non, alors mince, c'était, moi j'étais venu pour un séminaire de leadership et il va nous parler de la prière. Alors, franchement, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et le premier danger, c'est de parler de la prière sans prier. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup parler de la prière. Mais la question importante, c'est est-ce que je le fais ? Il y a bien des années, je crois que c'était encore dans les années 90, moi, je faisais partie d'une église qui se trouve à Annemasse, donc près de la frontière suisse, et on était reliés avec un réseau d'églises qui était en Suisse romande. Donc Neuchâtel, Lausanne, vous savez, toutes ces Yverdon. Yverdon se trouve au bord du lac de Neuchâtel, tout au bout. Et là, il y a un grand centre de conférences, et les pasteurs de toute la région avaient invité Yom Kishou. Alors, Yom Kishou, c'était le héros à l'époque, c'était la plus grande église du monde, etc., vous savez. Et vous savez que les Coréens, c'est des champions de la prière. Bon. Et voilà que, donc il y avait, je sais pas, je crois qu'il y avait 2000 personnes, enfin quelque chose, on avait fait un grand coup là. Et je crois qu'il y avait même Pierre Truchel était venu à cette conférence, donc il y avait, ça balayait aussi un peu cette partie est de la France. Et Yom Kishou nous parle de la prière. Donc il enseigne sur la prière pendant 3 jours, vous voyez. Et puis il y avait des grandes soirées avec prier pour les malades, etc. Enfin, c'était magnifique. Et tous les pasteurs étaient contents, c'était formidable, etc. Et moi, j'étais pas dans la réunion de pasteurs qui faisait une sorte de débriefing, vous voyez, après avec le pasteur Yom Kishou, mais j'entendais mon pasteur qui me racontait tout ça. Et puis c'était un grand succès, formidable. 2 ans plus tard, on réinvite Yom Kishou et de nouveau 2000 personnes, tous les pasteurs suisses romandes, est de la France, tout ça, tout le monde était là et voilà. Et puis Yom Kishou enseigne sur la prière. Alors là, après la première matinée d'enseignement, les pasteurs se réunissent avec le pasteur Yom Kishou et ils disent, on a un problème. On t'a fait venir il y a 2 ans, t'as parlé de la prière, là on te fait revenir, tu nous parles de la prière. Nous on s'attendait à ce que tu parles de leadership, de je sais pas, moi, de groupes de maisons, de stratégies d'église. Yom Kippour leur dit, est-ce que vous avez mis en pratique ce que je vous ai enseigné il y a 2 ans ? Silence. Donc je recommence. Fin de l'histoire. Et il a enseigné sur la prière. J'ai été aux 2 conférences, et c'était pas les mêmes messages mot à mot, je veux dire, parce que pas, mais je veux dire, c'était 2 conférences sur la prière. Mais parmi tous ces pasteurs, qui étaient la plupart des évangéliques ou des pentecôtistes, il y avait un pasteur réformé. Son nom m'échappe maintenant, mais ça, qu'importe. Il y avait un pasteur réformé de Neuchâtel, et quelques années après, je l'écoute, je l'ai rencontré quelque part et il parlait. Et il nous a dit, vous savez, en 97 ou 96, je ne sais plus quelle année c'était, j'ai été à Yverdon et j'ai écouté le pasteur Yom Kippour parler sur la prière. Et après cette conférence, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on prie le matin, comme les Coréens. Et depuis, tous les matins à 5h, je prie 1 heure. Et ça a changé ma vie. Et il parle de ça. Je l'écoute et je me dis, waouh, c'est un réformé qui a mis en pratique. C'est un réformé qui a mis en pratique. Donc, quand je vous parle de la prière, c'est parce que, en fait, vous savez déjà tout. J'en suis sûr. Je suis sûr que vous savez tout sur la prière. Vous pourriez venir ici et dire mieux que moi sur la prière. C'est vrai ou pas ? J'en suis convaincu. Vous savez tout sur la prière. Oui ou non ? Soyez sincères. Vous savez tout, nous savons tout sur la prière. Okay ? Il faut prier le Notre Père. On sait même comment prier le Notre Père phrase par phrase. Je peux vous faire, si vous voulez, on peut faire le parcours du tabernacle ensemble. D'accord ? C'est Yom Kippour qui nous enseignait. De temps en temps, je prie des fois le Notre Père phrase par phrase. Des fois, je prie le parcours du tabernacle. Etc., etc. Donc, on a les techniques, on a les méthodes, on a la connaissance, on a la théologie de la prière. Vous voyez? On a tout. Mais est-ce qu'on le fait? Et si on le fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une percée à faire encore dans la prière pour qu'on voit des résultats plus probants autour de nous dans notre pays de France? Vous voyez? Donc, et aussi, en quoi est-ce que cette affaire de prière concerne la vie du disciple? Eh bien, on va le voir dans les actes. Regardez avec moi dans les actes. Juste quelques passages. Acte 4. Acte 4. Alors, vous connaissez les actes, donc je vais juste prendre les points saillants. Acte 4. Merci Seigneur. Acte 4, ils prient tous ensemble après la persécution. Et au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 9, verset 11. Acte 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit à Ananias, donc par rapport à Saul de Tarse, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Car il prie. Ensuite, dans Actes chapitre 10, versets 2 à 4, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux. Et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, lui dit « Qu'a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. » Acte 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Donc la prière déclenche des miracles La prière fait bouger le bras de Dieu dans les actes des apôtres. Voyez ? Et aujourd'hui encore, rien n'a changé. Et notre Yom Kisho, dont je vous parlais tout à l'heure, disait quelque chose de très important. J'ai beaucoup étudié, et j'ai appris que vous aviez commencé par des groupes de maison, c'est intéressant, mais j'ai beaucoup étudié la question des groupes de maison. Et je crois que c'est une des stratégies que Dieu nous donne pour l'Église de la fin des temps. Mais Yom Kisho disait, la clé du réveil, c'est pas les groupes de maison. La clé du réveil, c'est la prière. Et comment garder le réveil et la croissance, c'est les groupes de maison. Mais la clé du réveil, c'est la prière. Vous suivez ? Parce que c'est ça le feu qui alimente tout le reste. Vous voyez ? Si vous avez une grosse machine à vapeur, une grosse locomotive. Bon, quand j'étais enfant, j'ai vu encore des locomotives à vapeur, c'était les toutes dernières. Aujourd'hui, ça n'existe plus, sauf dans certains parcs, vous savez, dans les Cévennes, je crois qu'il y a encore un train à vapeur. Mais vous avez déjà vu une locomotive à vapeur ? C'est impressionnant, hein, ça. C'est énorme. Mais s'il n'y a pas le feu, votre locomotive, elle ne bouge pas. Vous avez beau avoir les soupapes, vous avez beau avoir les tonnes de ferraille, ça ne bouge pas. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas le feu. Il faut qu'il y ait le carburant, il faut mettre le charbon, il faut aller au charbon et mettre le charbon. Vous voyez, c'est ça la prière. Quand vous priez, vous allez au charbon. Et tout à coup, en priant, vous réalisez que, à un moment donné, vous arrivez à un point où vous dites, mais Seigneur, je comprends pas, il faut que tu fasses quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et vous luttez avec Dieu dans la prière, comme les prophètes d'autrefois, qui disaient à Dieu, mais enfin, c'est pas normal. Tu regardes l'injustice, tu fais rien. Donc tu aimes l'injustice ou quoi? Mais c'est exactement ce qu'il disait à Dieu. C'était des gens, quand ils priaient, ça déménageait, ça bougeait, vous comprenez? Ensuite, ils disaient, bon, je vais me tenir sur ma tour et je vais attendre la réponse. Mais il faut que tu me répondes. Et ils attendaient, de pied ferme, que Dieu leur réponde. C'est comme ça qu'ils priaient, vous voyez? Imaginez qu'à Aubergenville, vous dites, mon Seigneur, il y a combien de millions d'habitants dans l'île de France qui ont encore besoin de l'Évangile. Tu ne peux pas les laisser aller en enfer. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? J'attends jusqu'à ce que tu me répondes. Si on priait comme ça, je prends un exemple, vous suivez? Et puis aussi, prier, la prière, c'est... On apprend à prier en priant, une parenthèse. On apprend à prier en priant. Alors, une fois, Dieu m'a piégé, je vais raconter ça. J'ai un ami qui est responsable de notre union d'église Elim France, qui se trouve en Haute-Savoie, dans l'église où nous avons. J'ai été formé avec lui, avec le même pasteur qui a maintenant bientôt 90 ans, qui était quelqu'un qui connaissait le pasteur Copin, donc qui connaissait toute l'histoire. Voilà, qui a connu le réveil en Normandie. Enfin, oui, qui a connu un peu le réveil en Normandie, on peut dire ça. Donc Luc, mon ami, est responsable de l'église en Haute-Savoie, et de temps en temps, j'allais prêcher chez lui parce que je connaissais bien l'église, je montais de Marseille, et je lui disais, tu sais Luc, si vous voulez percer, il faudrait plus de prières dans l'église. Il me disait, oui, mais tu comprends, j'ai personne. Vous savez, les pasteurs, ils disent tous la même chose, j'ai personne, en général. J'ai pas de leader, j'ai personne qui a à cœur, oui. Donc j'ai dit, ah bon, ok, puis je laissais tomber. Et puis un jour, j'avais une prédication, c'était dimanche matin, et ça m'est arrivé que deux fois dans ma vie, ce genre d'expérience. J'avais mes notes, je savais sur quoi j'allais prêcher, je commence à prêcher, et impossible de mettre une idée après l'autre. Je tournais en rond, alors que, vous savez, quand vous êtes enseignant, c'est facile de donner le change, parce que vous avez les réserves. Mais là, c'était impossible, il n'y a rien qui passait. Et puis je voyais Luc qui me regardait angoissé en disant « Quand est-ce qu'il va atterrir ?» Ça a pris entre 15 et 20 minutes. Je ne sais pas si vous aimez. Alors, je trouvais des choses à dire, mais c'était du vent, il n'y avait rien. Il n'y avait pas l'onction. Et vous savez, des fois, on a l'onction sans le savoir, parce qu'elle est là et on s'y est habitué. Mais quand vous ne l'avez pas, là, vous savez que vous ne l'avez pas. Et là, j'avais perdu mes moyens. Et c'était vraiment terrible. Franchement, Seigneur m'a fait passer un mauvais quart d'heure, là. D'accord ? Et au bout de 17 minutes, ou je sais que c'était entre, tout à coup, je prononce le mot prière. L'onction tombe sur moi. Je commence à parler de la prière. Et ça a été, alors, comme une locomotive. Et à la fin, je fais un appel. Plein de gens se lèvent et pour répondre à cet appel pour la prière. J'arrive chez Luc pour manger chez lui. Il me dit, Jean-Hugues, on démarre une école de prière. Je lui dis, OK. Il me dit, bon, tu viens tel samedi et après, on prie tous les matins à 6h et on fera un zoom de prière tous les matins. Et le samedi suivant, tu reviens pour boucler l'école de prière. Ça fait 3 ans qu'on prie du lundi au vendredi à 6h, entre 6h et 6h30 ou 6h45 par zoom, j'ai été piégé. Parce qu'avant, moi, à 6h, je dormais. Vous voulez savoir la vérité? Ou j'écoutais le réveil, mais il était loin le réveil, vous voyez? J'essayais de me réveiller. Et depuis, avec Luc, à 5h, on se lève, on se prépare. À 6h, il y a le zoom de prière, vous voyez? Et ça a changé ma vie de prière, parce que Dieu m'a piégé. Dieu m'a piégé. Il m'a dit, toi, tu vas voir. D'accord? Toi, l'enseignant, là, qui a toujours des bonnes choses à dire, je vais te mettre au travail. Comprenez ce que je veux dire? Et Dieu a besoin d'une armée qui se lève sérieusement dans la prière. C'est très important. Donc, quand vous regardez la vie de prière de Jésus, dans Luc 3, 21, il est dit, Jésus est dans le baptistère, dans le Jourdain, et puis Jean-Baptiste est là, il le baptise, et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que Jésus prie, le ciel s'ouvre. Ensuite, on le voit plus loin sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et pendant qu'il prie, son visage devient lumineux. Ses vêtements deviennent blancs et irradient la lumière. Pendant que Jésus prie, quelque chose se passe. Dans Luc 11, Jésus priait en un certain endroit. Et là, les disciples lui disent, Jésus, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils priaient? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Quand Jésus priait, quelque chose se passait. Vous voyez? Et Jésus priait tout le temps. Jésus prie toute la nuit pour choisir ses disciples. Jésus priait la nuit pendant que les disciples traversaient, après une longue journée avec la multiplication des pains, vous savez, c'était une longue journée celle-là. Hein. Vous regardez dans Matthieu chapitre 14, c'est une journée qui compte. Et c'était une journée type de la vie de Jésus. Jésus avait des journées tellement... je vous dis ça après. Donc, il oblige ses disciples à traverser la mer, le lac de la Galilée, où il y aura du reste une tempête en supplément, vous voyez. Et Jésus est seul sur la montagne en train de prier. Donc la nuit, il prie. Quand est-ce qu'il dormait? Il dormait au moment de la sieste. Jésus était marseillais un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir. Venez à Marseille faire un stage avec nous, franchement. Non, c'est une blague. Mais Jésus était méditerranéen, disons. Il n'était pas marseillais, il était méditerranéen. En Méditerranée, il fait chaud, donc vous faites la sieste. Jésus se rattrapait parce que vous rappelez qu'il était sur le lac. Il était sur le lac et il dort. Mais il dormait profondément. Parce que quand il y a la tempête, il dort. Parce qu'il rattrape sa nuit, parce que la nuit, il pria. Jésus priait beaucoup. Vous voyez? Regardez dans Marc chapitre 1, verset 35. Donc, ils ont eu une réunion de réveil sans les affiches, sans Instagram, d'accord? Mais les gens ont entendu parler, le bouche à oreille a marché, il y a eu une guérison, deux guérisons, et tout à coup, les gens font la file, et jusqu'à je ne sais pas quelle heure, 1h du matin, minuit, je ne sais pas, Jésus guérit les malades et chasse les démons dans la maison de Pierre, de la belle-mère de Pierre, et il y a du monde de partout, etc. Et finalement, bon, les gens vont se coucher. Le matin, qu'est-ce qui se passe? Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Mais il était fatigué quand même. Il y avait quand même une réunion de réveil le soir jusqu'à, allez, on va dire 1h du matin, je ne sais pas. Et là, à 5h, il est debout et il prie. Et il, dans ce genre de maison, il y avait de la place, mais je pense qu'il ne dormait pas chacun dans une chambre, vous voyez. Donc, il avait besoin d'être tranquille pour prier. Il priait à voix haute, c'est certain. Puisqu'on entend, puisque les disciples racontent qu'est-ce qu'il dit dans sa prière à Gethsémani. Donc, il prie à voix haute. Entre parenthèses, c'est très important de prier. La première chose que j'enseigne à quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, toute première chose, je lui dis, il faut que tu pries à voix haute. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez à la mairie, que vous vous mariez, et que l'adjoint au maire est là devant vous, il dit, monsieur un tel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle un tel, enfin à l'époque on disait mademoiselle, aujourd'hui on dit madame. Et si le jeune premier dit, il ne sera pas marié, vous êtes d'accord? Il ne sera pas marié. Il faut qu'il dise oui. Et là, il demande à l'épouse qui dit oui, et après il dit, je vous déclare marié devant la loi. Pourquoi? Parce que vous avez dit oui. Et votre oui vous engage. Vous suivez? C'est juridique. Donc la prière, c'est un acte juridique. Quand vous ouvrez votre bouche, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Parce que vous avez ouvert la bouche. Maintenant, vous avez remarqué une chose, c'est que c'est pas facile de prier, vous avez remarqué ça? Bien, il n'y a que moi qui l'ai remarqué. Ok. Pas facile de prier. Quand j'avais 18-19 ans, mes parents, mon père était pasteur à Lausanne, et il m'envoie faire une visite à une dame âgée qui avait 96 ans. Il dit, écoute, va la voir, on n'a pas le temps, mais va l'encourager dans sa foi, etc. Moi, j'étais pas pasteur, hein, mais je veux dire, bon, je connaissais le Seigneur, il savait que j'avais quand même. Et donc, je vais pour encourager cette dame, qui avait, je pense, à peu près, elle avait 80 ans de vie chrétienne. Et elle m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, vous savez, jeune homme, parce que à l'époque, ces gens-là, ils vous voyaient, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, jeune homme, vous pensez que je prie facilement et que c'est facile pour moi de prier. Moi, je dis oui, parce que je me disais, cette dame, 80 ans de vie chrétienne, elle doit prier toute la journée, quoi. Elle fait que ça, je veux dire. Elle m'a dit, ben non, c'est pas facile. La prière, c'est toujours un combat. Et ça m'a marqué. Et lui dit donc, c'est pas une question d'habitude, c'est pas une question de quelqu'un qui est très spirituel, qui prie plus facilement que les autres, c'est un combat pour chacun d'entre nous. Et quand vous avez compris ça, au lieu de se dire, ah mais c'est normal, la femme du pasteur, mais elle prie facilement parce que c'est elle, parce que elle, ça fait, vous voyez, non, c'est un combat pour tous. Donc ne pense pas que c'est plus facile pour les autres. Combat toi aussi. Quels sont les obstacles à la prière? Quand vous avez tous, enfin vous n'avez pas tous été en Afrique, mais vous avez tous entendu parler des gens qui ont été en Afrique, et pour vous qui êtes d'origine du continent africain, et qui avait vécu peut-être votre vie chrétienne là-bas en quelques années, je ne sais pas, je ne connais pas votre historique à chacun, mais vous savez, comme moi, que là-bas, on sait prier. D'accord ? La prière, c'est une autre chose en Afrique. Une nuit de prière, c'est comme vous priez 5 minutes, quoi. C'est normal. Vous avez un pasteur de... J'avais rencontré un pasteur d'Ouganda qui me disait que la veille du Nouvel An, le 31, il fait un message à la radio... Rendez-vous au stade XYZ pour une nuit de prière, et le soir arrive, le stade est plein, et il prie toute la nuit. C'est la normalité, c'est comme si nous, on se dit, allez, on va boire un café, on va se faire un petit repas au restaurant. Allez, on va se remplir un petit stade, on va faire une nuit de prière. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, qui ne se passe pas ici? C'est que, faut pas oublier qu'en France, on a eu quelque chose qui s'appelait la Révolution française, juste en passant. Mais qu'en France, avant la Révolution française, c'est vrai que c'était un pays catholique. Mais néanmoins, ces catholiques, ils priaient. Vous voyez ? Même après la Révolution, les catholiques priaient avant de manger, le bénédicité. Il y avait les prieurés, il y avait des gens qui étaient payés pour prier, entre guillemets, payés pour prier. C'était leur vie, ils faisaient que prier. Vous voyez ? Il y avait dans les monastères, on priait jour et nuit, il y avait des rondes de prières, on se lève la nuit pour prier, etc. etc., etc. Et la France était inondée de prières. Si vous préférez. C'est vrai que c'était catholique. C'est vrai que y a, dans le catholicisme, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais enfin, ils priaient. Ils priaient. Vous savez qu'un quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, par exemple, je prends un exemple, qui vient de Côte d'Ivoire, qui est catholique, ok, a plus de feu et a plus de vie de prière qu'un évangélique bon chic bon genre en France. C'est garanti. Alors qu'il est catholique. Il vous dira, mais je sais pas, il vous dira, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Il n'y a personne qui prie. Il ne va pas comprendre quand il arrive directement à la Côte d'Ivoire. Ok, l'atmosphère donc spirituelle étant différente, la prière est d'autant plus difficile. Quand mon pasteur Michel Rimbert avait été à Séoul pour visiter l'église de Yonkisho, bien sûr, il avait été impressionné par la vie de prière de cette église. Et il m'avait dit, quand tu es là-bas, tu pries facilement, parce que le ciel est ouvert. Quand le pasteur Claude Stalin avait été à Séoul, il avait dit à ma sœur, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des chrétiens. Eux, c'est des chrétiens, nous, on n'est pas des chrétiens. C'était sa réaction. Il était bleu. Il disait, j'ai été à la nuit de prière là-bas. Et pendant toute la nuit de prière, il regardait les gens prier. Il était choqué. Il disait, mais c'est pas possible. On n'est pas des chrétiens. C'était sa réaction de bon français, vous savez. C'était un homme de prière, Claude Stalin, ceci dit. Il me disait, avec ma femme, des fois le soir, on se met à genoux, on prie pendant une heure. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils le faisaient. Vous voyez ? Donc on a besoin de retrouver ces choses, mais aussi de comprendre l'atmosphère spirituelle, les obstacles, et ensuite savoir comment franchir ces obstacles. Vous voyez ? Donc en France, le culte de la raison et surtout le manque de reconnaissance. On est un pays de râleurs. Vous avez remarqué ? Encore ma femme, tout à l'heure dans la voiture, elle m'a dit « Arrête !» Parce que comme je conduis la voiture de mon fils, je commençais à râler contre la voiture. « Mais c'est quoi cette voiture ?» Mais c'est... Elle m'a dit « Mais arrête !» Parce que quand vous conduisez une voiture, vous n'avez pas l'habitude. En plus, c'est une mini anglaise. Alors là, je me disais « C'est quoi ? C'est un tracteur ?» Donc bon, j'étais négatif, vous voyez, pour changer. On est négatif. Donc on est tout le temps en train de se plaindre. On se plaint de Monsieur le Président. On se plaint du Premier ministre, on se plaint de tout le monde, d'accord ? Et puis on se plaint de notre patron, etc., etc. Donc il y a une atmosphère négative. Or, bibliquement parlant, la base, c'est la reconnaissance. Vous voyez ? Parce que tout premier péché, la racine de tous les péchés, c'est le manque de reconnaissance. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu, Romains chapitre 1, dans les versets 22-23. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas reconnu que c'était lui le Créateur, qui lui devait tout. Imaginez que je vienne chez vous, vous ne me connaissez pas, d'accord ? Je viens chez Jérôme et comment t'appelles-tu ? Yunoka. Je viens chez Jérôme et Yunoka, d'accord ? J'entre, je ne les regarde pas, je ne les salue pas, je viens dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je me sers, il me regarde, qu'est-ce qui lui arrive, peut-être qu'il a un problème psychiatrique, d'accord ? Vous voyez ? Je ne les calcule pas, comme disaient les jeunes aujourd'hui, et puis je m'installe, je vais à la salle de bain, je vais prendre ma douche, enfin, j'aurais pas dit bonjour, j'aurais pas... Vous me diriez, mais Jean-Hugues, mais... Vous voyez ? C'est impensable. C'est absolument impensable. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on arrive chez quelqu'un, bonjour, je ne vais pas m'asseoir tant qu'on ne va pas me donner un siège. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le minimum de la politesse et de la reconnaissance. Maintenant, nous, on est chez Dieu. Vous saviez ça ? On est chez Dieu. C'est lui le Créateur. On se sert, on prend, on s'installe, on ne lui dit jamais merci, on ne regarde même pas. On ne le calcule pas et on pense que c'est normal. Or, simplement de ce fait-là, déjà de base, on est dans le péché. On offense Dieu. Mais quand, voyez, quand vous êtes avec ces frères et sœurs africains ou coréens, ils sont tout le temps en train de remercier Dieu, vous voyez, et puis vous dites, oh, quand même, il exagère. Ben non, c'est nous qui exagérons. C'est nous qui exagérons dans l'autre sens. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on n'a pas saisi. Vous suivez ? Donc rien que cette atmosphère-là, C'est un gros obstacle à la prière. C'est un gros obstacle à la prière. On ne sait pas prier. On doit apprendre à prier. C'est la base de la base de la base. Et c'est ce qui va tout changer dans le leadership, dans le discipulat, dans tout ce que vous voulez, dans l'organisation, c'est la prière. C'est l'huile qui va mettre, c'est l'huile dans les rouages, si vous préférez. D'accord ? Donc, les obstacles à la prière. Premier obstacle, la chair. Figurez-vous que vous n'avez pas envie de prier. Ça, c'est la vérité. D'accord ? Des fois, ça m'arrive, je me dis, ah, si seulement je pouvais m'arrêter, prendre 2-3 jours, seul avec Dieu, prier. Alors, je pars pour une retraite de prière, et j'arrive, et là, j'ai pas envie de prier. Terrible, quand même. C'est la chair. La chair n'a pas envie de prier. Non, non. Ne me faites pas dire le contraire. Ne me faites pas mentir. Deuxième obstacle, c'est le manque de discipline. Vous voyez, Dieu m'a piégé avec mon affaire de Zoom là tous les matins, parce qu'on est responsable de la prière, donc on est obligé de... Vous voyez ? Mais ça, aujourd'hui, pour moi, c'est normal. C'est devenu naturel. Mais au début... Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a pas pris comme décision ? Vous voyez ? Donc, troisième, enfin, c'est pas les obstacles, c'est comment vaincre ces obstacles plus exactement. Donc, là, ce qui va nous aider, c'est de discerner les obstacles, vous voyez ? Et puis, de se dire, le manque de discipline, ben, je vais le contrecarrer par la discipline, mais aussi la prière communautaire, le fait de le faire ensemble, ça nous oblige quelque part, vous voyez ? On a besoin d'être stimulé. Tenir son corps en bride, dit Paul, c'est à cause de la prière. Parce que le bon repas à la française, vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de prier après. Vous dormez. C'est logique. Hein ? Donc Paul dit, non. Tenez votre corps en bride pour la prière, en vue de la prière. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai la peine à prier, je vais marcher et je prie en marchant. Parce qu'au moins, comme ça, je ne peux pas dormir puisque je marche. Vous suivez ? On a tous nos techniques. Il y avait un homme de prière dont j'avais entendu parler. Lui, il se mettait les pieds dans de l'eau froide pour ne pas dormir. Vous voyez ? Parce qu'il vivait dans un pays chaud. Et donc, c'est sa manière à lui de ne pas dormir. Prier à voix haute, ça, je vous en ai parlé. C'est très important. Et puis, notre attitude physique dans la prière. Si vous priez dans votre fauteuil, vous voyez, je veux dire... ou dans votre lit avec 3 coussins derrière la tête, votre prière va finir par un ronflement délicieux. Comment je veux dire ? Mais si vous êtes à genoux ou debout ou en train de marcher, ou enfin dans une attitude... Vous savez que la prière, c'est un combat. C'est un combat. Et notre corps, parce qu'on est esprit, âme et corps, mais tout ça, ça marche ensemble. Hein ? Alors, le diable va, au moment où vous commencez à prier, première chose, vous avez tout à coup une liste de choses qui viennent dans la tête, des choses que vous avez oublié de faire. Et qu'il faut faire. Oh là, il y a ça, oh là là, puis j'ai oublié ça. Alors ce que vous faites, c'est pas difficile, un petit truc, vous prenez un papier, un crayon, au début que vous mettez à prier, vous notez tout ce qui vous vient. J'ai pas fait ça, maintenant c'est bon, c'est noté. Allez, maintenant tu pries. Vous allez retrouver le papier. D'accord ? Donc, vous n'avez plus besoin de vous distraire avec ces activités, et vous priez. Ça c'est les petits trucs, vous voyez, que je vous donne, des trucs pour disciples. Deuxième attaque de base, c'est la distraction. J'ai soif, il faut que j'aille me faire un café, il faut que je mette la clim, etc. etc. Là, je parle pour les Marseillais. Ok. Et puis ensuite, vous rappelez l'armure du chrétien ? C'est une armure pour prier. Pourquoi j'ai besoin du bouclier de la foi ? Par rapport au doute que l'ennemi me lance. À quoi ça sert de prier ? Est-ce que tu pries là pour cette personne qui a le cancer parce que tu penses qu'elle va être guérie ? Non mais franchement, qu'est-ce que tu crois ? Vous voyez ? Donc il vient avec son doute. L'accusation, c'est classique dans la prière. Vous mettez à prier et le diable vous rappelle un péché en disant « Et toi, tu oses prier avec ce que tu as dit là à ta femme ? Non mais tu rigoles ou bien ? Et tu oses prier avec tout ce que tu as fait dans ta vie, etc. » Et il vient t'accuser. Donc vous connaissez comment ça marche ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Et ensuite, on chasse l'accusateur et on continue à prier. La confusion. Tu pries et tout à coup, tu ne sais même plus. Alors déjà, je prie qui ? Le Père, le Fils ou Saint-Esprit ? Et puis, tu pries dans un sens, ça part dans tous les sens, et dans une sorte de confusion générale. Ça vous arrive jamais? Ça, c'est une attaque spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait contre la confusion? Le casque du salut. D'accord? Et puis, aussi une chose très simple, tu pries la parole de Dieu. Tu ouvres ta Bible et tu pries mot à mot ce qui est dans ta Bible. Après, tu le personnalises. Et là, comme ça, tu peux pas errer dans la prière dans tous les sens. Tu pries la parole. Ça, c'est très efficace. Et tu peux demander à Dieu des passages, des psaumes, des textes d'Ésaïe. C'est magnifique. C'est puissant dans la prière. OK? D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans Acte 4. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton prophète David, pourquoi les nations s'agitent-elles, etc. Et puis, ils citent le psaume et ils le prient, mot à mot. Donc, ils priaient la parole de Dieu. Ils priaient les psaumes. Donc, on a notre matériel de prière, là. On a tout. Vous priez les psaumes. Vous savez que les protestants, nos ancêtres protestants au XVIe, XVIIe siècle, en France, priaient minimum 3 fois par jour. Ils connaissaient les psaumes quasiment par cœur. Ils les priaient, ils les chantaient. Ils priaient avant de manger, après le repas. Ils n'arrêtaient pas de prier. C'était la vie normale des réformés à l'époque. Vous voyez ? Il y avait une piété familiale très forte. Ils connaissaient la parole. Ils priaient. Il y avait cette... Et donc, on a un héritage à reconquérir. Vous voyez ? Après, si tu as du non-pardon dans ton cœur, c'est très difficile de prier. Si tu n'es pas sûr d'avoir pardonné à quelqu'un... Un test. Un jour, je vous raconte l'histoire. J'avais un problème avec mes parents. Bon. J'étais à l'école biblique. J'avais un ami qui était burkinabé, dans la même chambre que moi. Puis un jour, il dit « Oh, on va prier pour nos parents. » Bon. Bon, pourquoi pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il commence à prier pour ses parents. Je commence à prier pour mes parents. Puis là, j'ai une boule à la gorge qui vient. Je veux dire. Il me regarde, il me dit « T'as un problème avec tes parents ?» Et donc, si vous priez pour votre entourage, vous avez problème, mettons que vous ayez un problème avec votre pasteur, priez pour votre pasteur, vous saurez tout de suite si c'est pardonné ou pas. C'est pas difficile. Vous comprenez? Donc, quand il y a un problème de non-pardon, la prière, ça débouche la tuyauterie de l'Église. OK? Voilà. Et puis, il y a un dernier obstacle à la prière, c'est juste le péché, tout court. S'il y a vraiment un péché habituel dans ta vie, eh bien, évidemment, tu vas voir que ta vie de prière, elle devient, c'est le calme plat. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et que tu dois régler. Dans ce cas-là, tu règles la chose. Tu vas voir un frère, une sœur, quelqu'un ou un responsable, tu dis, voilà, j'ai ce problème dans ma vie, ça fait des années que ça dure, maintenant il faut que je règle. Parce que je me rends compte que je ne peux pas prier. Je ne peux pas combattre. Je ne peux rien faire. Je suis un chrétien paralysé, immobilisé, parce qu'il y a un problème avec le péché qui n'est pas réglé. Et ça arrive. Ça arrive. Faut pas se mentir. Donc ça, c'est vraiment quelques bases au niveau de la prière. Et je vous propose qu'on fasse, parce que je ne vais quand même pas vous parler 3 heures de suite, hein, je propose qu'on fasse une pause maintenant. Je n'ai pas parlé avec toi, pasteur, mais si on peut faire peut-être une pause, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Oui, combien de temps on se donne? Non, on fait une pause, on priera après. Juste un temps de pause, je ne sais pas, 5 minutes, vous voulez vous lever, prendre une petite boîte, 10 minutes. 10 minutes, un petit café. Voilà.
Oui, on prend moins 10 minutes, de toute façon, on vous rappelle. Hein. Voilà. Même si c'est un quart d'heure, ce n'est pas grave. Tu
n'as pas cité le café, mais ça peut être.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai, merci. Je suis sûr qu'on a tous nos méthodes. Oui, encore quelques mots par rapport à la prière. Paul demande dans Colossiens 4, je crois, il dit « Priez pour qu'une porte me soit ouverte pour annoncer l'Évangile. » C'est étonnant ce sujet de prière-là. Parce qu'on a l'impression, on se dit « Attends, l'apôtre Paul, quand même, c'était quelqu'un, d'accord ?» Donc lui, prêcher, évangéliser, tu le fais tomber en parachute quelque part, il se met à prêcher, les gens sont sauvés, guéris, etc. Non. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je suis venu chez vous avec une grande crainte et un grand tremblement.
Donc Paul, des fois, il avait peur. Vous imaginez Paul avoir peur ? Eh oui. Et Paul dit, priez pour moi pour qu'une porte me soit ouverte. Donc Paul dépendait de la prière. Et il le savait. Lui-même priait, c'est un homme de prière, mais il dépendait de la prière et il mobilisait l'Église dans la prière pour que l'Évangile avance. Et le grand secret, aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a la prière, il y a l'évangélisation, et on met les deux ensemble. Si vous mettez les deux ensemble, les amis, vous allez voir des grandes choses. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des spécialistes, il y a des gens très prophétiques. Alors, quand je dis très prophétiques, ils sont très prophétiques. Hein. Ça plane haut, vous voyez, je veux dire, ils voient des anges, ils collectionnent les plumes d'anges, ils voient de l'or par terre, enfin, ça y va. Hein. Alors, je ne suis pas contre les plumes d'anges et l'or. C'est, je veux dire, moi, j'ai des plumes dans mon duvet, ça me va. Mais je ne suis pas contre, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme vous voulez. Mais la question, est là, on est tellement dans le prophétique qu'on est déconnecté de la moisson. Vous suivez? Donc, ça sert à quoi? Et puis, il y en a d'autres, ils sont dans l'action. Ils sont dans le social, ils sont dans l'évangélisation, et ça y va, ils distribuent des Bibles, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de prières. Il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, je veux dire, pourquoi pas mettre les deux ensemble? Alors, peut-être pas les plus extrémistes avec les plus extrémistes, ce serait compliqué. Mais commençons entre nous, vous voyez, d'allier... quand je prie, quand l'Église prie, elle prie avec un objectif, c'est le salut des âmes, vous voyez. Et quand quelqu'un évangélise, il n'évangélise pas sans qu'il y ait une couverture dans la prière. Et on a rencontré, je vous donne quelques clés qu'on a eues à Marseille. On a rencontré en septembre 2023 une équipe qui venait de Californie, je crois. Et ils nous ont beaucoup, beaucoup bénis parce qu'ils nous ont dit, en fait, ils nous ont donné un exemple. Ils nous ont dit, et j'aimerais vous donner les choses qui vous seront utiles ici, parce que si je pourrais... Mais une chose qui m'a impressionné, il m'a dit, le responsable il m'a dit, on était une équipe de 5 personnes à Hollywood, pour implanter une église à Hollywood. Il faut avoir du culot quand même, implanter une église à Hollywood. C'est pas, vous voyez. Mais partout, il y a besoin d'église, partout, il y a besoin de témoignages. Et il dit, on sortait tous les jours, du lundi au samedi, je crois, ou vendredi. Alors, ils étaient à plein temps pour ça. Vous savez, les Américains, ils ont des moyens, hein, d'accord. Une équipe de 5 missionnaires à Hollywood. Et tous les jours, évangélisation, évangélisation, évangélisation. Donc, ils allaient avec des méthodes toutes simples, classiques. Et il dit, au bout de 3 mois, aucun résultat, aucune conversion, rien. Alors, pour un Américain, c'est très difficile. Pour un Français, moi, j'allais lui dire, bah oui, et alors ? Nous, on a l'habitude. Mais pour un Américain, 3 mois sans résultat, c'est culturellement, ça passe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il a tout arrêté, il dit, Seigneur, il a prié. Il dit, Seigneur, je ne veux pas dire qu'il ne priait pas, mais... Là, il a prié sérieusement, il a dit, Seigneur, il y a un problème. Il faut que tu me dises qu'est-ce qu'on a fait de mal, quel est le péché qui nous bloque, qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur lui dit, à partir de maintenant, puisque tu me demandes comment il faut faire, quand vous sortez, il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui restent pour prier. Il dit, OK. Donc le lundi, il commence, et puis ils mettent une ou deux personnes, je ne sais plus s'il y avait une ou deux, qu'importe, mais dans la prière. Et les 3 autres qui sortent, le soir, ils reviennent tout contents. Il y avait une conversion. Deuxième jour, au bout de 15 jours, tout à coup, il y avait plein de fruits. Et alors là, ils se sont dit, c'était quand même... Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Vous voyez, je veux dire. Nous, comment est-ce qu'on prie? Seigneur, bénis mon projet. Amen. Et après, on fonce. Et on n'a pas de résultat. Mais Dieu te dit, non, pas comme ça. Il faut tout baigner dans la prière, 24 heures sur 24, du début à la fin, il faut qu'il y ait une force de prière. Vous voyez ? Une vraie force de prière. Et après, tu peux prendre la méthode que tu veux, tu peux faire le projet que tu veux, ça va marcher. Enfin, que tu veux. N'exagérons rien. Un petit peu de stratégie, ça ne fait pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais des fois, on réalise que la méthode n'avait pas tellement d'importance. La méthode, c'est la prière. C'est la foi. La prière, la foi. Vous voyez ? Et là... Les choses que vous faites vont commencer à porter du fruit. Comprenez ? Et ce sera extraordinaire. Si en plus on a la stratégie, alors c'est génial. Parce que là, on voyez. Donc, alliez la prière avec l'évangélisation et l'évangélisation avec la prière. Mettez les deux ensemble. Et vous serez beaucoup, beaucoup plus efficace. Ça marche ? Maintenant. on va aborder une deuxième caractéristique du disciple. J'ai plein de notes, mais je vais être obligé de... Voilà, et je tourne les pages. Un disciple accompli sera comme son maître. On va lire dans Luc 6. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Je répète, Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça va ? Bon, c'est Jésus qui le dit. Donc on a un standard, on a un objectif assez élevé là quand même, d'être comme Jésus. Vous voyez ? Ça veut dire ça. Un disciple accompli est comme Jésus. C'est ce qu'il dit. Vous êtes toujours d'accord d'être disciple ? Oui, vous dites non, attends, là, je crois que chrétien nous suffira. Vous voyez ? Membre d'église me suffira. Un jour, quelqu'un en Chine, à Hong Kong plus exactement, avait un ministère d'implantation d'église. Il implantait une église par année avec environ 60 personnes. Donc, il y avait un fruit extraordinaire. Une église par année, et au bout de 5 ans, les missionnaires aux États-Unis, vous savez, les missions baptistes, ils ont des budgets missionnaires absolument, c'est colossal, hein, c'est une machine de guerre. Et ils regardent leurs statistiques, ils disent, oula, mais celui-là, il porte du fruit, c'est quand même une église par année qui est implantée. Donc ils s'intéressent à lui, et ils lui disent, on veut te proposer 3 mois de formation sur les mouvements d'implantation d'église. Donc avec des missionnologues, avec des grands spécialistes internationaux qui vous parlent comment implanter des églises, qui implantent des églises, etc. Est-ce que c'est une très bonne chose, en parenthèse. Et ensuite, on aimerait t'envoyer, il ne dit pas quel pays, je suppose que c'est la Chine, mais enfin, un pays où il y a la persécution, où il y a un endroit où il y a 20 millions d'habitants, vous imaginez l'Île-de-France bien, voilà, d'accord. On t'envoie là-bas pour lancer un mouvement d'implantation d'églises, pour atteindre ces 20 millions de personnes. Au début, il a dit non, il ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas aller dans un pays où ça chauffe. Puis finalement, sinon il a persuadé, il y a été quand même. Mais il a fait ses 3 mois de formation. Et il disait, tous les soirs, les gens rentraient à leur hôtel, et nous, on était dans la salle de conférence, et avec ma femme, jusqu'à minuit à genoux, on priait, on disait, Seigneur, donne-nous la clé, parce que si on implante une église par année et qu'on veut atteindre 20 millions de personnes, on n'y arrivera jamais, même si on vivait jusqu'à 120 ou 130 ans, vous voyez, je veux dire, ou 500 ans. Donc il faut que tu nous donnes la clé. Et puis un soir, le Seigneur les a visités. Et Dieu lui dit, ouvre Matthieu 28, 19 et lis. Mais lis lentement et je vais te souligner des mots. Alors, il commence, il lit, allez. Il dit, stop, allez. Ce n'est pas les gens qui doivent venir vers toi, c'est toi qui vas vers les gens. Première chose. Vous savez, on a cette mentalité, il faut que les gens viennent à l'église. Donc on va embellir jusqu'à ce qu'il vienne. Mais Dieu dit, va. Vous voyez ? Allez. Ensuite, il continue à lire. Allez, faites de toutes les... Toutes, souligne toutes. Va vers tout le monde. Ne sélectionne pas. Moi, je fais la sélection. Va vers tout le monde. Ok, il note ça. Va vers tout le monde. Et puis, quand il arrive au mot disciple, il dit, stop. Souligne le mot disciple. Il souligne le mot disciple. Et le Seigneur lui dit, ne mets pas disciple, mais mets formateur. Puis il dit, mais Seigneur, pourquoi ? Oui, parce que vous pensez qu'un disciple, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui donne sa dîme, qui prie à voix haute à la réunion de prière, et puis qui coche ce genre de cases-là, vous voyez ? Mais pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui peut former des disciples. Donc à la place du disciple, tu mets formateur, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper au niveau de l'objectif. Tout disciple accompli sera comme son maître. Quand Jésus dit dans Matthieu 13 que un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, ça ne veut pas dire, comme on le pense souvent, qu'un chrétien doit amener 100 ou bien 60 ou bien 30 personnes à la conversion. Mais ça veut dire qu'un chrétien, un disciple, utilisons les mots, un disciple, doit pouvoir former 30 ou 60 ou 30 personnes qui seront capables au final de faire la même chose que ce que toi tu sais faire. C'est-à-dire que si tu es pasteur, l'appel de Dieu, c'est que tu puisses former 100 pasteurs. Ou 60, ou allez, disons, au moins 30. Vous voyez ? Si tu as un don d'évangéliste, c'est que tu puisses former 100 évangélistes. Allez, 60, allez, d'accord, 30, mais pas moi. Vous suivez ? Un disciple accompli sera comme son maître. Jésus a formé 12, ensuite les 70. Vous voyez ? Et puis ça s'est multiplié. Est-ce que vous suivez toujours ? Donc ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'un disciple, c'est un leader. Parce que si vous formez des disciples, vous êtes un leader, non ? Vous ne pouvez pas y échapper. Donc un disciple accompli est un leader. Juste répète-le une fois pour moi. Un disciple accompli est un leader. Ça marche ? On est d'accord ? Donc commencez par être un disciple, grandissez, et vous serez un leader nécessairement, obligatoirement. Vous voyez ? Et donc, maintenant, Jésus a dit à ses disciples, que faites-vous d'extraordinaire ? Rappelez ça. Jésus est mort pour ses ennemis. Romains 5, 8. Quelqu'un mourrait peut-être pour un juste, pour un de ses amis, mais lui, il est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, donc des ennemis de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, aimez vos ennemis. Que faites-vous d'extraordinaire ? Vous aimez ceux qui vous aiment. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Aimez vos ennemis. Un disciple est censé être un modèle. Un modèle. Regardez dans Philippiens, chapitre 3. Juste en parenthèse, juste une chose avant d'arriver dans Philippiens 3, 17, 18, mais juste avant. Vous avez remarqué qu'il y a des choses dans la Bible qui vous choquent. Ça vous arrive ? Quand vous lisiez un texte de la Bible, vous dites « Oh ben quand même !» C'est choquant, non ? Ça vous est jamais arrivé ? Ou bien vous êtes des chrétiens tellement polis que même au Seigneur, vous n'osez pas lui dire. Ok ? Moi, il y a des choses dans la Bible, je dis « Mais ça va pas ! C'est incroyable !» Que Dieu dise ça, ou que Dieu demande de faire ça, ou que... Vous voyez ? Chaque fois que quelque chose vous choque dans la Bible, ne soyez pas trop spirituel. Du style, ah, mais c'est comme ça. Non, non, non. Dites au Seigneur, je ne comprends pas. Je suis choqué. Et rappelez-vous que ce n'est pas la Bible qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Ok ? Ça t'aidera à changer. Parce que si tu veux changer la Bible parce qu'elle te choque, toi, tu ne changeras jamais. Mais si tu laisses la Bible te transformer, tu seras un disciple comme ton maître. Donc, quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ça ne vous choque pas, ça ? Enfin, Seigneur, tu me demandes un truc impossible. C'est choquant. Vous voyez ? Et pourtant, s'il le dit, c'est que ça doit être possible. Vous voyez ? C'est qu'il y a une raison, sinon il ne le dirait pas. Qu'est-ce qu'on dit, nous, entre Français, en France, dans l'atmosphère spirituelle française ? Personne n'est parfait. Ok ? Personne n'est parfait. Et Jésus te dit, sois parfait. Ah bah Seigneur, t'es pas français. Viens faire un stage chez nous, tu comprendras que personne n'est parfait. Non, Seigneur, il n'est pas français. Il vient du ciel. D'accord ? Il nous apporte quelque chose qui vient du ciel. C'est surnaturel. C'est la puissance du Saint-Esprit. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche la tête dans le ciel, qui a la vision du ciel, qui marche dans le surnaturel, qui marche dans le miracle. Vous comprenez ? Et on verra ça tout à l'heure par rapport à la vie de l'esprit, enfin, demain plutôt par rapport à la vie de l'esprit, parce qu'aujourd'hui on n'y arrivera pas. Et donc, au Philippiens 3, 17 et 18, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul parle d'un modèle, d'accord ? C'est intéressant parce que vous avez remarqué que c'est collectif. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, parce que Paul avait une équipe. Ce n'était pas juste Paul, vous voyez, une espèce de surhomme, là. Non, non, c'était en équipe, et quand il venait avec son équipe, il y avait le royaume qui venait avec eux, et vous sentiez la présence de Dieu. L'autre jour, on était et dans au dôme, c'est une grande salle,
Et il y avait avec nous un évangéliste, avec sa femme et ses deux enfants. Parce qu'ils pouvaient pas, ils avaient pas le choix, il fallait qu'ils gardent leurs enfants. Donc c'était un peu familial comme réunion. Puis on était avec les responsables du dôme, vous voyez, c'était. Et puis il y en a un de ces responsables qui avait mal à sa hanche, l'évangéliste prie pour lui, la douleur s'en va. Et là, tout à coup, on avait l'impression que le ciel était venu sur la terre. La conversation change, on parle des choses de Dieu, etc. On devait parler business, on commence à parler des choses de Dieu. Quand vous venez, quand Jésus venait avec son équipe, l'atmosphère changeait. La conversation va changer. On est dans le surnaturel de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs et portez regard sur ceux qui vivent selon le modèle que vous avez reçu là. D'accord? Mais ce modèle, verset 18, il y a une clé très importante. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. En d'autres termes, le modèle que Paul donne, c'est le modèle de la croix. Il y a deux modèles. Il y a le modèle que Paul donnait, marcher selon ce modèle, ça correspond à la croix. Et puis il y a ceux qui marchent en ennemis de la croix, ça c'est pas le bon modèle. On est d'accord? Et ceux qui marchent en ennemis de la croix peuvent être chrétiens. Eh oui. Eh mais oui. Bien sûr. Faut pas se faire d'illusions. Vous savez, quand mes enfants qui ont l'âge de se marier, quand on parle ensemble, on a des grandes discussions sur avec qui je peux me marier ou pas, d'accord? Alors, une des choses, s'il est chrétien, et je leur dis toujours, tu sais, il y a chrétien et chrétien. Vous voyez? Quand c'est vos enfants, vous mettez la barre haute. Mais entre nous, vous êtes d'accord qu'il y a chrétien et chrétien? Et il y a ceux qui sont ennemis de la croix. Donc, ils prétendent être chrétiens. Mais en réalité, ils passent pas par la croix. Ils suivent. Là, il dit, comment est-ce qu'ils les décrivent? Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Et donc, il y a un christianisme qui pense qu'aux choses de la terre, qui cherche la gloire humaine. Comment pouvez-vous croire, vous, qui cherchez la gloire des hommes, dit Jésus aux pharisiens? Vous voyez? Donc, tout ça, ça existe. Mais nous, on veut le modèle qui passe par la croix. Et à ce sujet, j'aimerais vous parler de la conformité au modèle, la conformité à Christ. Et il y a un mot qui peut nous aider, c'est un petit peu technique, mais si vous voulez, la marche par l'esprit, la marche du disciple qui passe par la croix, marcher dans l'amour, marcher dans l'esprit. Vous connaissez ces expressions qui sont dans la parole de Dieu. Une manière de l'exprimer, c'est de parler d'alignement. Okay? Et j'aimerais demander à ma femme maintenant de venir. Elle va vous faire un exposé sur ce qu'on appelle l'alignement. Et ensuite, on arrivera je ferai la conclusion avec vous. Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire de marcher selon le modèle de Christ dans l'alignement? Viens Elisabeth, je vous présente Madame Jequier. Vous êtes à Elisabethville cet après-midi, d'accord, pour 20 minutes. Ok. Voilà, je te laisse. Je pose.
Oui. Bonjour. Alors, c'est un sujet dans lequel je me suis plongée et je trouve passionnant et tellement central, tellement nécessaire, utile. Et c'est un sujet qui me travaille beaucoup, du coup. Il y a des choses qui sont faciles, et puis d'autres, on se rend compte qu'on a des habitudes de fonctionner qui doivent être réformées. Alors, je vais essayer de faire succinct. Voilà. Donc, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire ? L'alignement, c'est se positionner pour entendre la voix de Dieu, pour être protégé spirituellement et pour pouvoir grandir spirituellement. Ça, c'est les objectifs de l'alignement. Alors, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que nous sommes corps, âme, esprit ? Ça va pour tout le monde ? Ok. Que Dieu est esprit ? Et qu'il parle à notre esprit. D'accord. Ok. Donc, on est bon. Donc, si je détermine un peu plus à fond ce qu'est l'âme, Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment est-ce qu'on définirait l'âme? Qu'est-ce qui compose l'âme? Les émotions, les sentiments, les pensées, l'intelligence, et la troisième partie, la volonté. On est d'accord. Donc, en fait, l'alignement, ça va être de se positionner de la bonne manière pour pouvoir être en capacité d'entendre la voix de Dieu, comme je disais tout à l'heure, entendre la voix de Dieu, être protégé spirituellement et pouvoir grandir. Alors, j'ai découvert dans la parole de Dieu quelque chose d'absolument intéressant, c'est comment sont nées les émotions négatives et tout ce qui maintenant est dans le monde et qui nous pose problème en fait. Lors de la création, quand Dieu a créé le monde, il a créé les cieux, la terre, il a créé un cadre de vie idyllique pour l'être humain, on est d'accord? Et son objectif, c'était que l'être humain soit en communion parfaite avec lui, d'accord? Dieu venait dans le jardin tous les jours, il discutait avec Adam et Ève comme ça, tout simplement. Mais Dieu est un bon pédagogue, c'est-à-dire que quand il a placé Adam dans le jardin, il lui a dit, voilà, ça c'est, tu peux prendre de tous les fruits, sauf ça et ça. Et si tu désobéis, voilà les conséquences. Ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Donc, les choses sont claires. Dieu dit, voilà les règles. Vous êtes chez moi, hein, comme Jean-Luc disait tout à l'heure, vous êtes chez moi, ben voilà les règles. C'est comme ça, je pose le cadre. Et si vous enfreignez le cadre, eh ben, les conséquences sont celles-ci. Et... Donc, en lisant l'histoire d'Adam et Ève, c'est intéressant de voir comment, avec la chute, toutes les émotions négatives sont arrivées sur la Terre, dans nos vies, enfin, dans la vie d'Adam et Ève. En fait, on ne va pas tout lire, mais comme vous connaissez bien l'histoire, j'imagine, eh bien, on va juste parler du fait que... le serpent est venu semer un doute. Donc, il est venu séduire l'âme au niveau de la pensée, de l'intelligence. D'accord ? Il est venu semer un doute en disant, « Et au fait, est-ce que Dieu a réellement dit ?» Ok ? Donc là, ça a été son amorce. D'accord ? Ève... Ça a commencé à la faire réfléchir, toujours dans son âme, et elle s'est dit, ah oui, au fait, ah ouais, puis il fait envie ce fruit quand même. Hein. Donc, tentation, séduction de la vue, ok. Et de là, elle a fait l'acte d'aller le chercher, d'aller le prendre et de le manger, et non seulement pour elle, mais aussi de le donner à Adam. Les conséquences sont ce que Dieu avait prévu, hein. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir honte. Il n'y avait pas de honte avant. Ils se sont cachés. Quand Dieu est venu dans le jardin, il a dit, mais pourquoi vous vous cachez? On a eu peur. Donc la honte, on se cache, on a peur. Et puis surtout, ah oui, mais Adam a dit, mais c'est pas de ma faute, c'est Ève. Ève a dit, mais non, c'est pas de ma faute, c'est le serpent. Ça me fait tellement penser aux enfants. Mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein? Mais pourtant, là, c'était des adultes, en l'occurrence. Donc voilà un petit peu, quand il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu, et c'est souvent le cas, c'est souvent ce qu'on dit à des gens qui ont des choses terribles dans leur vie, la tendance de l'être humain, c'est pas de retourner à Dieu, c'est d'aller se cacher loin de Dieu et de vouloir voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont devenues un petit peu des habitudes, une manière de faire qui va à l'opposé de ce qu'il faudrait. Ensuite, donc Dieu a déclaré des conséquences, vous allez souffrir, etc. Et il a chassé Adam et Ève du jardin. Ensuite, dans chapitre 4, il est parlé de Caïn et Abel. Caïn, Caïn et Abel avaient été enseignés par leurs parents qu'il fallait faire des sacrifices. Sinon, comment l'aurait-il su? D'accord? Caïn a fait... Alors, je vais juste reprendre le texte. Parce que pourquoi est-ce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et pas de Caïn? Donc, au chapitre 4, verset 3. Donc, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ok. Il n'a pas fait les choses selon la règle. Il n'a pas donné les prémices. Il n'a pas donné le meilleur. Il a fait une offrande, mais il n'a pas fait selon la règle que Dieu avait donnée. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel, lui, il a fait une offrande qui était selon ce que Dieu avait donné comme règle. Et donc, Dieu porte un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn. Caïn fut irrité, en colère. Voilà, la colère apparaît. Mais en plus, ça venait de son fait à lui. Hein. Et son visage a été abattu. Il est devenu triste. Voilà encore une émotion négative qui n'existait pas encore. Mais Dieu avait vu le cœur de Caïn. Il avait vu sa motivation qui n'était pas pure, qui n'était pas la bonne. Caïn a fait quelque chose en apparence qui pouvait être considéré comme bien, mais en fait, Dieu regarde au cœur. Et donc, attendez. Dieu parle à Caïn. Et en fait, à ce moment-là, Dieu lui donne la solution. Il lui donne le choix. Il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. D'accord? Ça veut dire si tu te ressaisis, si tu abandonnes ta colère, ta tristesse. Par contre, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire si tu te laisses aller dans tes émotions négatives, de colère, d'irritation, de tristesse, ça va t'emmener, ça va te tirer vers le bas. Et là, tu ouvres la porte à d'autres choses, et en tout cas au mal et pas au bien. Mais toi, domine sur lui. D'accord? Donc, il y a quelque chose à faire pour être dans l'alignement quand on est dans nos émotions et que ça va pas. Il y a quelque chose à faire pour se ressaisir et pour se remettre dans l'alignement. D'accord? Alors, j'aurais que tu peux venir, s'il te plaît.
Euh,
comme ça là-bas.
Alors, on a relevé quelques expressions qu'on dit couramment, d'accord, et qui peuvent être un piège par rapport à l'alignement. Est-ce que vous avez déjà entendu dire quelqu'un qui dit « Ouais, je fais ce que je veux. » Bon, je fais ce que je veux, il est dans son âme, il prend les décisions, etc. Donc ça veut dire qu'il n'est pas prêt à faire ce que Dieu lui demande. « Je fais ce qui me plaît. » Pareil, hein, Mais quand vous entendez des conseils, on dit « Écoute ton cœur. » Écoute ton cœur, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Écouter son cœur, ça veut dire quoi? En fait, là, quand je dis écoute ton cœur, ça veut dire écoute ton âme. Alors, tes émotions, est-ce qu'on est bon là? Ben non. Fais comme tu le sens. Pareil, fais comme tu le sens, ça veut dire, ça se situe au niveau de l'âme, ça ne se situe pas au niveau de l'esprit. Donc, ou bien alors, des expressions du genre, le sentiment toujours. Vous avez déjà entendu ça? Le sentiment toujours, le sentiment, ok? Mais en fait, le sentiment, les émotions, tout ça, en fait, ça nous renseigne sur l'état de notre cœur, en fait. On ne peut pas dire que non, il faut mettre de côté, non, il faut juste comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon âme. Si je ressens tel sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon âme, dans mon cœur, et qu'il va falloir que je le traite pour passer à autre chose. Et pas me laisser partir dans la mauvaise direction. Parce que ce que je crois dans mon âme, ça peut être un mensonge. Et pas la vérité. Voilà. Alors, j'ai juste quelques petits dessins. Des petits schémas que j'avais faits. Est-ce que vous voyez ou c'est trop petit? Alors, quand on est aligné, esprit, âme et corps, sous la protection du sang de Jésus, je suis en capacité d'entendre la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu vient parler à mon esprit. Ok ? Si c'est mon âme qui prend trop de place, qui domine dans ma vie, Dieu peut toujours me parler, mais je vais avoir des... Je vais pas réussir... Mon esprit va être complètement... Il va être dominé par mon âme et c'est comme si j'avais des bouchons dans les oreilles ou de la friture sur la ligne et je ne vais pas entendre clairement la voix de Dieu. Même si je prie, Dieu parle-moi, dis-moi quelle est ta volonté, mais quand on a une idée en tête et qu'on demande à Dieu quelle est ta volonté, on ne va pas l'entendre. Ok ? Donc, ça, c'est pour écouter la voix de Dieu. Donc, la deuxième chose que je vous avais dit par rapport à l'alignement, c'est par rapport à la protection spirituelle. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Si je suis dans l'alignement, toujours, l'esprit domine, l'âme est à sa place, on la range à sa place, le corps, protection de Jésus, toutes les attaques de l'ennemi ne vont pas m'atteindre, ok ? Parce que je suis protégée. Si mon âme domine, je prends tout en pleine figure. D'accord ? Voilà.
Merci. Merci, professeur.
Il y a une prière pour ça, ouais. En fait.
Je voudrais juste confirmer quelque chose qui nous arrive assez souvent sur ton deuxième schéma. Là.
Ouais.
Je trouve ça très, très intéressant.
Lequel ?
L'âme qui domine. Là.
Oui. Par la voix de Dieu.
Ouais. Ouais. Je trouve ça c'est intéressant parce que encore récemment avec Gilles, on a fait l'expérience. Il y a des gens qui disent je vais me placer devant Dieu. C'est-à-dire que quand ils sont dans un méli-mélo de l'âme, hein, bon, enfin, souvent nous on se voit pas dans quelle disposition on est. Mais quand on est avec quelqu'un, on voit bien que c'est son âme. Mais la personne va dire non, non, je vais me placer devant Dieu. Mais s'il se place devant Dieu avec cette âme-là, sous prétexte qu'il va écouter la voix de Dieu, il ne pourra pas l'écouter.
Amen. Alors, il y a une prière qu'on appelle la prière d'alignement. Alors, si vous voulez, c'est, vous retrouvez ces principes dans la Bible, en parenthèse. Je vous ai parlé de la marche par l'esprit, Galates chapitre 5. Tous ces principes, vous les retrouvez dans la Bible. Mais le fait de les expliquer de cette manière, ça nous aide à percevoir un peu plus qu'est-ce qui se passe en nous. Et une prière que vous pouvez faire, c'est... Vas-y, fais-la, toi.
Celle-là ?
Oui. Elisabeth est beaucoup plus disciplinée que moi, donc ça marche.
Je vais vous la lire, et après, je pourrais vous la donner, si vous voulez. Voilà une prière. J'en ai une réduit, et l'autre plus longue. Père, je choisis d'être un homme ou une femme de Dieu, spirituel, parce que être spirituel, c'est pas juste. C'était quoi, Watchman Nee qui disait là ?
Oui, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui marche dans l'alignement.
Voilà, c'est ça. Il faut marcher. Si on veut être spirituel, il faut marcher dans l'alignement. Sinon, ça colle pas. Donc, je choisis d'être un homme, une femme de Dieu spirituel. Je désire marcher tous les jours de ma vie par l'esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne à mon corps de se soumettre à mon âme. Hein, le corps. Tu te soumets à mon âme, tu te mets à ta place, quoi. Mon âme, au nom de Jésus, je t'ordonne de te soumettre à mon esprit. Mon âme, tu n'auras pas l'autorité sur ma vie. Je ne serai pas manipulée par la souffrance, le rejet et les peurs qui sont en toi. Je t'ordonne de te soumettre à mon esprit. Et j'ordonne à mon esprit de se soumettre au Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je décide de ne recevoir de force, d'aide et de soutien ou de direction d'aucun autre esprit que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Vous savez que quand je dis très rapidement à certains moments, mon corps, tu te soumets à mon âme, tu te soumets à mon esprit, tu te soumets à Dieu, immédiatement, je fais par la foi, eh bien, il y a quelque chose qui s'aligne. Je le sens. D'accord. Je réalise qu'il y a quelque chose qui s'aligne. Et ça m'aide à... Mais prenez Abraham. Pensez à Abraham. Pensez à Agar. Vous rappelez l'histoire d'Agar, c'est très intéressant. Regardez avec moi dans Genèse 16. Vous allez voir là un exemple d'alignement qui est phénoménal. Et quand vous lisez la Bible à la lumière de ce schéma... C'est extraordinaire, si vous voulez. Ça vous saute aux yeux, entre guillemets. Et dans Genèse 16, vous avez une histoire qui est très intéressante. On va lire Genèse 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Saraï dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Saraï. Évidemment que là, ils sont plutôt dans la chair que dans l'esprit, on est d'accord, hein, c'est pas un scoop. Hein. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Ça, c'est un petit peu surréaliste hein, quand on lit ça, on se dit « waouh ». Après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Mettez-vous, en parenthèse, là, dans nos traductions aseptisées françaises, c'est marqué servante, mais c'est esclave. Cette femme était esclave. Il y avait des esclaves. Réfléchissez encore un instant. Dieu appelle un homme Abraham. Un homme qui va échanger sa femme contre des chameaux avec le roi d'Égypte. Un homme qui a des esclaves. Enfin, est-ce que vous auriez choisi un disciple comme ça, vous ? Et pourtant, Dieu va en faire le père de la foi. Vous vous rendez compte, quand Dieu fait un disciple, parce que là, c'est Abraham est le disciple et Dieu est le faiseur de disciples. Quand Dieu fait un disciple, il prend le pire du pire, ok ? Pour bien nous montrer, oui, c'est possible. Mais il y a des gens qui arrivent à l'église, vous dites, ouh là là, cette personne, je crois qu'il n'y a pas de solution. D'accord ? Avec Dieu, il y a toujours une solution. S'il y avait une solution pour moi, c'est qu'il y a toujours une solution. D'accord ? Donc, je referme cette parenthèse. Alors, comme Agar regarde sa maîtresse, l'esclave qui regarde sa maîtresse avec mépris, parce que maintenant je suis enceinte du maître, donc toi, la maîtresse, là, d'accord ? Tu rabaisses ton caquet, parce que moi, maintenant, j'ai un statut, maintenant, vous comprenez ? C'était logique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarah, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Lui, « Débrouille-toi, moi, j'y suis pour rien. » Ok. Alors Sarah la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. Je pense qu'elle l'a frappée. Hein ? D'accord ? À l'époque, ça existe encore aujourd'hui, ça. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Ça, c'est la question qui va l'aider à s'aligner, d'accord ? Elle répondit, « J'ai pris la fuite. » Loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse. On s'arrête ici. Est-ce que quelqu'un peut appeler SOS femme battue tout de suite ? C'est une honte. Là, je suis choqué. Là, la Bible me choque. Entre nous, on va appeler SOS femme battue, on va se plaindre. C'est quoi cette histoire ? L'ange de l'éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse, mais elle la frappe. Mais Agar, il y est pour rien. Si vous voulez, je vous la fais à la Marseillaise. Je me fais l'avocat d'Agar. C'est terrible ce qui lui arrive, vous vous rendez compte ? Elle est enceinte de son maître, elle est obligée de s'enfuir de sa maîtresse, elle va mourir dans le désert, et puis lui dit, retourne, vas-y, va prendre des coups. C'est pas vrai. Vous voyez, là, c'est l'âme qui parle. Là, c'est l'âme qui dit, c'est pas juste, c'est pas bien, je suis pas d'accord avec le pasteur, regarde ce qu'il me demande de faire, mais c'est pas possible. Mais il n'y avait pas SOS femme battue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, mais je ne suis pas contre SOS femme battue, soit dit en passant. Hein. Il faut s'occuper aussi des femmes battues, c'est pas ce que je veux. Mais je suis en train de parler de la mentalité qui est derrière, c'est ça que je suis en train de parler. Ok ? Non, parce qu'il y a des gens qui vont dire oulala. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais pourquoi il lui dit humile-toi sous sa main ? Parce que l'ange savait qu'elle avait méprisé sa maîtresse. En d'autres termes, oui, tu as un statut d'esclave. Oui, c'est dur. Mais tu l'as regardé avec, t'as regardé ta maîtresse avec mépris. Tu es sorti de l'ordre des choses. D'accord ? Et donc, tu récupères le résultat de tout ça. Tu retournes chez ta maîtresse, tu t'humilies sous sa main. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est pour l'esclavage ? Non ? Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que Dieu tient compte de la structure sociale du moment, et Dieu va permettre à Israël, grâce à sa loi, de limiter les méfaits de l'esclavage et finalement les faire sortir de tout ce système. Mais à l'époque, c'était comme ça. Rappelez-vous, Abraham est un disciple qui est en marche. Et il dit à ce qu'il est en train de dire à cette femme, c'est pas en te révoltant, en fuyant, que tu vas résoudre le problème. Pour le moment, c'est comme ça, c'est ton statut social. Tu t'humilies sous la main de ta maîtresse. On n'est pas content, hein, quelque part. Peut-être qu'en vous, vous dites, non, mais quand même, je sais bien, c'est la Bible qui le dit, mais quand même, ça ne me plaît pas, cette histoire. Ok, mais c'est normal que ça ne vous plaise pas. Et puis ensuite, il lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Vous voyez ? Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El Roi, car dit-elle, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Achai Roi, qui est entre Kadesh et Bered. Et puis donc, il y a le fils qui va naître. Cette histoire est une histoire qui nous concerne tous. Vous voyez ? Nous, moi, pastoralement, qu'est-ce que j'aurais dit à Agar ? Je vais vous dire ce que j'aurais dit, moi, avec mon âme. Parce que je suis terrible pour ça. D'ailleurs, souvent, j'ai dû me faire reprendre par le Seigneur et par des frères qui m'ont dit, Jean-Hugues, tu dis pas, il faut dire toutes les choses. Il faut reprendre les gens, sinon ils vont pas grandir. Oh, Agar, mais c'est terrible ce qui t'arrive. Mais c'est une honte ce que Sarah t'a fait, de te frapper comme ça. Mais moi, je te prophétise que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour ton fils. Dieu va t'élever. C'est vrai que Dieu avait un plan pour elle. C'est vrai qu'il voulait bénir son fils. Et là, on devient des grands prophètes, vous savez, pour encourager la personne. Mais on lui dit pas la vérité. La vérité, c'est que avant de te parler de bénédiction, tu retournes chez ta maîtresse et tu t'humilies. Ça, c'est la pilule qu'on a la peine à avaler. Vous comprenez? Ouais, mais moi, ce patron, j'en peux plus, etc. Tu retournes à ton travail, tu t'humilies, tu demandes pardon et tu te soumets. Et Dieu te bénira, mais pas avant. Vous comprenez? Donc notre âme, elle est là et elle crie l'injustice, etc. Mais Dieu, il voit au fond des choses, d'accord? Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand Dieu nous parle, il parle à notre esprit, et quand on dit on obéit, c'est l'esprit qui prend le dessus, l'âme se soumet à l'esprit, le corps se soumet à l'âme, et tout va changer. Tout va changer. Tout à coup, on entre dans la bénédiction. Parce qu'on s'est humilié. Parce qu'on s'est mis dans l'ordre divin. Vous voyez? Et ça, c'est une grande, grande clé. C'est une grande clé. Il y avait un Stephen Hill, qui était l'évangéliste à Pensacola, quand il réveille à Pensacola. Il y a environ, je crois, 2 millions de personnes qui sont passées dans ce réveil, qui sont passées par la repentance. C'était extraordinaire ce qui s'est passé là-bas. Et il racontait ceci. Il disait, quand j'étais... Il était passé dans le centre, il était drogué, il était en train de mourir. Un pasteur luthérien est venu, lui a dit, prononce le nom de Jésus. Répète. Il a, répète. Et cinquième fois, il a dit Jésus, tout à coup. La spasmophilie s'est arrêtée. Il était en pleine overdose. Il a été guéri et délivré la drogue instantanément. Juste en prononçant le nom de Jésus. Il est rentré dans la cuisine. Sa mère l'a pas reconnu. Son visage avait changé. Elle a eu un choc. Elle savait pas que c'était son fils. Tellement il avait changé instantanément. Ensuite, il est passé par l'école de David Wilkerson avec toute leur discipline. Et puis, Dieu lui a mis à cœur la mission. Et Dieu lui a dit, tu vas aller en Argentine implanter des églises. Donc, il était dans les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, aux États-Unis, c'est pas rien, vous voyez, je veux dire. Et à Springfield, ils ont leur quartier général avec des grands bâtiments, etc. Et donc, il va à Springfield voir le bureau missionnaire pour avoir un interview avant qu'on l'envoie comme missionnaire, vous voyez. Donc, il y avait le dossier, il savait qu'il avait un appel pour l'Argentine, il savait tout ça. Et il dit, il y avait une grande table ronde avec des missionnaires qui avaient 60, 75 ans, qui avaient passé leur vie sur le champ missionnaire en Inde, en Afrique, partout. Des hommes de Dieu, des pas n'importe qui. Hein. Et donc lui, il se sentait tout petit devant ce grand bureau devant lui. Et puis on lui pose des questions d'usage. Alors, dis-nous ton parcours, enfin, voilà, etc. Et puis après qu'il ait tout dit, etc., il y a un homme au bout de la table qui dit, bon, on a décidé de t'envoyer en Inde. Il répond, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis le vieux dit, allez, c'était un test, t'as passé le test, tu vas aller en Argentine. C'est ça l'alignement. C'est ça l'alignement. Vous comprenez? Non! Dieu m'a dit que j'irai en Argentine! Ben mon gars, t'es pas mûr. Ni pour l'Inde, ni pour l'Argentine. Reste chez toi. Vous comprenez? Parce que t'es pas aligné. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a... Calme-toi, calme-toi. Dieu a dit à Agar qu'elle aurait une grande descendance. Dieu a dit à Agar qu'elle allait bénir Ismaël, mais il lui a aussi dit qu'elle devait s'humilier. C'est pas parce que Dieu t'a fait une grande promesse que tu ne dois pas passer par l'humiliation. Vous suivez? Ça ne marche pas comme ça. Si c'est l'âme qui prend le dessus, c'est mort, comme dit un de mes collègues. C'est cuit. D'accord? En tout cas, il faudra que tu repasses l'examen jusqu'à ce que tu aies compris. Et là, ce jour-là, quand tu auras compris, Dieu va t'élever. Et puis, il y aura encore un autre examen. Et puis, un autre examen. Parce que ça n'arrête jamais. OK ? Parce que tous les jours, on doit s'aligner. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire ? Elle est là, la clé de la vie de disciple. Elle est là. Elle est quand on passe par la croix. C'est la clé de toutes les clés. Le reste se mettra en place. J'ai été voir deux jeunes qui vivaient dans l'adultère. Mais un adultère puissance 10, quoi. Bon, je ne vous donne pas tous les détails. J'ai pris l'avion pour aller les voir. Ça fait 10 ans que je suis l'un d'entre eux, enfin le garçon. Et puis lui était complètement perdu, il était au bout de lui-même. Mais il savait très bien qu'il était dans le péché. Hein. Et donc là, j'ai dit, je viens de voir. Je les ai vus les deux. Je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe. J'aurais expliqué. J'aurais expliqué l'alignement. J'aurais dit, vous êtes devenu... La fille t'a pris la place de Dieu dans le cœur de ce garçon. J'ai dit au garçon, cette fille a pris la place de Dieu dans ton cœur. Donc, vous désobéissez à Dieu parce que vous êtes une idole l'un pour l'autre. Donc, il faut couper. Pas facile. D'accord ? Il faut couper. Donc, ils ont accepté. Le lendemain, les miracles commençaient. La bénédiction commençait à venir. Parce qu'ils avaient décidé de se séparer. Vous voyez ? À un moment donné, il faut couper. Mais leur âme leur disait, on s'aime. C'est l'amour de ma vie, blablabla, blablabla, et tout ça. Et oui, mais d'abord, on vide l'assiette, on la nettoie, on la met à la machine. D'accord ? On la ressort toute propre. Et après, on verra ce que Dieu veut. Mais d'abord, tu obéis. D'abord, tu t'humilies. D'abord, tu coupes avec le péché. Et il n'y a pas de sentiment qui tienne. C'est l'obéissance. Vous suivez ? Et c'est dur. Je vous dis la vérité, c'est dur. Et je suis le premier à être un grand sentimental. Vous savez, quand un chrétien vous dit « Moi, je suis hypersensible », ça veut dire que tu n'es pas dans l'alignement. Arrête de dire que tu es hypersensible. Moi aussi, je suis hypersensible. On est tous hypersensibles. On a tous des émotions. D'accord ? Et Dieu n'est pas contre les émotions. Je vous rassure, Dieu n'est pas contre les émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Dieu lui-même a des émotions. Dieu peut se mettre en colère. D'accord ? Jésus avait des émotions. Vous êtes d'accord ? Il a pleuré. Il s'est réjoui. Donc, on a des émotions. Dieu nous a créés avec. Les émotions sont un signal de ce qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas l'émotion qui est un mensonge. C'est ce que tu crois dans ton cœur qui est un mensonge. Et c'est ça qu'il faut débusquer. L'émotion te signale que quelque chose ne va pas. Donc tu vas voir ce qui se passe dans ton cœur. J'ai pas obéi. Je crois à mon mensonge. Prenez le mariage. Qu'est-ce que disent les films de Hollywood ? C'est pour ça que c'est important d'évangéliser là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les films d'Hollywood, pardon ? Il y a un couple très gentil, très sympathique. Ils ont tout pour être heureux, mais il y en a un qui se dit « Non, mais... je me suis trompé, c'était pas elle la femme de ma vie. » Parce que quand je vois elle, là, ah oui, c'est elle la femme de ma vie. Vous suivez ? D'accord ? Est-ce que c'est la vérité ? C'est pas la vérité. C'est le mensonge auquel tu veux croire parce que tu la convoites, c'est ça la vérité. Mais la femme de ta vie, c'est toujours elle. C'est toujours la première. La femme de ta jeunesse. Et on la trahit pas. Ok ? On la trahit pas pour des émotions, pour de la convoitise. D'accord ? Et donc, l'alignement, c'est de dire non. Vous voyez ? Mais Hollywood, c'est de dire, en fait, dans la vie, il faut au moins, avoir trois ou quatre essais pour trouver la bonne ou le bon. Mais ça, c'est un mensonge. Vous suivez ? C'est un mensonge. Je parle pour je prends un cas, mais dire, chaque cas est différent et c'est jamais aussi simple que ce que je vous dis maintenant. Mais quelque part, je vous donne un exemple classique dans la mentalité d'aujourd'hui. Vous voyez, je veux dire, la fidélité, c'est un ovni. C'est dire quoi être fidèle ? Ça sert à quoi la fidélité ? Vous voyez, je veux dire, on a plus cette notion de fidélité. On a plus cette notion de parce que on marche pas selon la vie de Jésus, la croix. C'est un chemin étroit, d'accord ? Donc, on va marcher dans l'alignement pour être un disciple comme son maître. voyez, Jésus lui-même, âgé de Gethsémané, a dit au Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Beaucoup plus simple. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc l'alignement, il y a des moments où tout en vous dit non, moi je veux pas. D'accord ? Sinon tu dis si, il faut que tu le fasses. Il faut que tu dises à cette personne, il faut que tu rompes avec cette personne, il faut que tu dises la vérité, il faut que tu règles ça, etc. Et il y a tout en nous qui veut pas, qui dit non, non, non. Mes sentiments, tes sentiments, ils vont suivre. T'inquiète pas pour tes sentiments. Le pardon, c'est pareil. Le pardon. Qui a envie de pardonner naturellement? Mais personne. Mais personne, quand t'es blessé, t'as pas envie de pardonner. C'est pas naturel de pardonner. C'est pareil. J'obéis et les sentiments suivront. Vous voyez, il y aura un changement profond dans mon cœur. Parce que je réalise que la vérité, c'est que Christ est mort pour cette personne. Et Christ est mort pour moi. Donc je peux pardonner. Vous voyez, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie du disciple. Et depuis qu'avec Elisabeth, on enseigne ça dans notre petit groupe dans le nord de Marseille, on vit des choses. Hein, et des fois, on se parle les uns aux autres. Et on est avec des gens. Si je vous parlais de Marseille quelques instants, la quantité de traumatismes dans certaines familles qui ont vécu dans les quartiers nord où il y a la drogue, la prostitution, les familles sont complètement... Le père est en prison, les gens vont en prison, etc. Aller-retour en prison. Vous imaginez la quantité de traumatismes, la pauvreté, toutes ces choses qui s'accumulent dans une vie. Et vous demandez à quelqu'un comme ça de marcher dans l'alignement, pas facile. Parce qu'il y a tout dans le cœur qui est le rejet, la peur, c'est un volcan continuel, vous voyez. Et on travaille comme ça avec ses amis, et c'est extraordinaire. On est bluffé par leur foi et leur désir d'obéir au Seigneur, et les victoires, et les témoignages semaine après semaine. Voilà, celui-là, je voulais lui casser la figure. Vous me direz, mais enfin, quand même, un chrétien ne casse pas la figure. Mais oui, mais un chrétien qui s'est converti en prison, qui a vécu sa mère lui disait, il faut que tu aies un couteau, sinon t'es pas un homme, etc., etc. Il a vécu toute sa vie comme ça. Eh ben oui, pour lui, casser la figure à quelqu'un, c'est comme toi de pas dire bonjour à quelqu'un. Vous voyez, je veux dire. C'est pareil. Parce qu'il y a un autre contexte. Pour quelqu'un comme ça, de marcher dans l'alignement, c'est pas simple. Et pendant une semaine, tu vois qu'il lutte, puis finalement, il a la victoire. Et puis il témoigne, il dit « je ne vais pas casser la figure ». Et tout le monde applaudit et c'est la fête dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on apprend, la vie des disciples, c'est un apprentissage. Abraham a appris. Au début, il a échangé sa femme contre des chameaux. D'accord? Et puis à la fin, tu lui as dit « non mais c'est par elle que tu seras béni ». C'est 25 ans qu'il attendait. Enfin, la pièce est tombée. Ah, j'ai compris. La bénédiction passe par ma femme. Moi, ça fait 33 ans que je suis marié. Et depuis quelques mois, quelque chose est en train de se passer dans notre couple. J'ai souvent prêché sur Abraham, mais la pièce est en train de tomber. Vous voyez, je vous parle pour moi. Vous voyez, et elle n'est pas complètement tombée encore. Il y a encore des petits courts-circuits de temps en temps. Vous suivez? On a de la peine à comprendre le plan de Dieu. Et puis on a nos vieux réflexes, nos vieilles ornières. Et Dieu veut nous changer, nous transformer, parce que on est des disciples. Et un disciple, pour être comme son maître, est obligé de changer. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, accepter d'être repris, accepter la correction. Amen. Dites, si vous êtes d'accord, levez la main. C'est bon. Bah, déjà, regarde, on a gagné. On a gagné. On n'a pas parlé ensemble avant, je vous promets. On se connaît très peu avec votre pasteur. Il n'y a pas de, dans ce que je vous apporte aujourd'hui, il n'y a pas de, comment expliquer ça? Il n'y a pas de plan secret en disant, il faut que tu leur parles de ça, puis il faut que tu leur parles de ça. Je vous promets que ça fait des jours que je dis aux gens qui me disent, qu'est-ce que tu veux à Paris? Je dis, je connais pas l'église. Je connais à peine le pasteur. Le thème qui m'a été donné, je vois pas trop où je vais aller. je tire dans le brouillard. Vous comprenez, je veux dire, on vient avec crainte et tremblement avec ma femme, pour vous dire la vérité. Enfin, on n'a pas, c'est pas qu'on a peur de vous, mais je veux dire, de dire, est-ce que, mais si on a gagné cette victoire, j'accepte d'être corrigé. On a déjà gagné une grande victoire. Vous comprenez? Parce qu'on peut se dire les choses les uns aux autres. On peut prier les uns pour les autres. On peut confesser nos péchés les uns aux autres. On peut avoir des grandes victoires de cette manière. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, comme on dit, d'accord, et qui connaît rien à rien, et qui sent cette atmosphère d'humilité, d'amour, de vulnérabilité devant le Seigneur, eh ben, il a envie de changer. Il y a un appel d'air. Et ce sera facile d'en faire un disciple. Mais s'il arrive dans un endroit où tout le monde est déjà parfait, et il te regarde de haut en disant « Mais toi, t'as encore rien compris, etc. », il n'a pas envie de changer. Il a envie de partir en courant. Vous voyez ? Et donc, il y a un brisement dans notre cœur qui va être le parfum de Christ pour ceux qui sont dehors. Ils vont sentir ce brisement. Et ils vont venir. Vous voyez ? C'est ça, le parfum de Christ, c'est le brisement. C'est ce qu'il fait ressortir, en tout cas. Et il y a un monde qui souffre. Et ils ont besoin de voir des gens brisés. L'autre jour, des fois, il y a des trucs qui nous arrivent. Alors, vous dites, vous avez plein de pensées. Là, je ne suis plus dans la protection. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, tout ça, etc. Parce que des fois, on a l'impression, quand on est chrétien, on est comme les héros des films. Vous voyez, tout le monde meurt autour d'eux, mais eux, ils ne meurent jamais. C'est un peu... Eh ben non, les chrétiens aussi, ils ont des épreuves. Voilà, bon. Et l'autre jour, je suis avec notre petite C3. Je vais dans un parking, c'était dans un coin de Marseille où on est en Algérie, qu'on n'est plus à Marseille. Hein. Et puis, c'est un parking qui est un peu alambiqué. Et puis, les voitures, à Marseille, on se gare en double fil, triple fil. Enfin bon, il y a des voitures de partout. Je vais à la librairie biblique, j'achète mon livre, je retourne vers la voiture. Je me dis, bon, je vais faire une longue marche arrière parce que, voilà. Erreur fatale, n'est-ce pas? Je fais ma marche arrière. Vous savez, quand vous faites une marche arrière, vous voyez pas tout. Et puis, il y a quelqu'un qui décroche et je rentre dedans. Sa porte avant. Le gars, il sort. C'était la famille, vous savez. Il sort, il commence à crier. Ma voiture était neuve, blablabla, le cinéma, etc. Donc, à la fois, j'ai la paix et en même temps, je me dis, mais Seigneur, je fais quoi, là? Moi, je suis pas très bon dans les voitures. Alors, je lui dis d'abord, je vous demande pardon. Comment ça, je vous demande pardon? C'est trop facile, je vous demande pardon. Regardez ma voiture, ta, 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 ta. Bon, je lui dis, est-ce qu'on fait un constat? Ouais, moi, j'ai pas les papiers de la voiture avec moi, j'ai pas mes papiers avec moi. Je savais qu'il n'y avait pas d'assurance. Donc, j'appelle un ami, je lui dis, bon, voilà les dégâts. Il me dit, bon, je lui dis, combien? Il me dit, bon, là, avec, tu vas chez un tel, etc. Parce qu'à Marseille, ça coûte beaucoup moins cher qu'ici, rassurez-vous. On a nos trucs, d'accord? Donc, il me fait le prix marseillais, 250, 300 euros. Je dis, bon, ok. Donc, je lui dis, écoutez, je vais chercher l'argent, on va faire ça à l'amiable. Il me dit, tu as trouvé où l'argent? Parce qu'on se tutoie à Marseille, oui. Mais je lui dis, mais ma voiture, elle est là, je ne vais pas partir avec la voiture, je la laisse là, moi, je vais à la poste, je prends l'argent et je reviens. Il me dit, bon, d'accord, et puis, continue, crier, etc. Je reviens, je lui donne plus que les 300 euros, j'avais un montant à cœur. Je lui donne ce montant. Là, il s'est calmé un petit peu quand même, parce qu'il a vu l'argent. Et puis, mais il continue quand même. Il dit, ouais, mais enfin, regardez. Et puis, il recommence. Et puis, il me dit, bon, moi, j'ai besoin de scotch, là, parce que pour le rétroviseur, parce qu'il pendait un peu son rétroviseur. Je lui dis, bon, je connais le magasin, je vais leur prendre du scotch. Donc, je vais vite à ma librairie biblique, je dis, vous avez du scotch. Alors, ils avaient un système de rouleaux de scotch avec... Vous savez, un dévideur, enfin un gros truc là qui pèse une tonne. Donc je cours, j'arrive avec mon dévideur, on tire, je lui donne le scotch, il fait sa réparation. Et puis je plante mon pouce bêtement dans l'espèce de petite tirette en métal, vous savez, avec les petites dents. Et je saigne. Mais je m'aperçois pas que je saigne, parce que vous voyez. Et tout à coup, il me dit, vous saignez? Je dis, ah oui. Puis je suce mon pouce. Et puis, excusez-moi pour les détails, mais vous allez comprendre. Et tout à coup, il change. Il dit, ah mais... Je crie, je vous demande pardon, j'aurais pas dû faire comme ça, il y a mes enfants qui me voient faire. Et là, il commence à se confondre en excuses. Et tout à coup, il vire complètement, il change. C'est lui qui demande pardon, c'est lui qui s'excuse. Je lui dis, non, mais c'est moi qui ai tort. on était presque devenus des amis tout d'un coup. Et puis, la paix était revenue. Et c'était bon. Et puis on est parti, on était quasiment amis. C'est vrai qu'à Marseille, les émotions, ça monte et puis ça descend comme ça. C'est très marseillais, on peut dire. Et donc, il faut avoir le cœur bien accroché là-bas. Vous voyez, je veux dire, faut pas suivre la pente, sinon vous allez faire un arrêt cardiaque. Faut juste. Mais j'ai senti que je sentais que le fait que j'étais resté en paix tout le temps et calme, ça lui parlait. Oui, il y a quelque chose qui est en train de passer, sans parole. Il y avait quelque chose qui l'interpellait. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé à saigner, mais ça l'a, il y a comme eu un... Ça, et après, je rentre à la maison, et puis bon, je dis à ma femme, voilà, j'ai eu tort. Parce qu'après, il faut affronter madame, vous voyez, je veux dire. Donc, vous voyez qu'on vit, on est des gens normaux, hein, on marche dans l'alignement, mais on a aussi nos problèmes. Pardon. Et donc, un jour après, je crois, je sais pas, le lendemain, Elisabeth me dit, ah ben, il y a une histoire de charge, de report de charge avec l'appartement, etc. Et la somme était là. D'accord? Il y avait cette somme que j'avais payée pour cette voiture, ben, on n'a plus besoin de la, enfin, Seigneur nous l'avait. J'ai dit, Seigneur, non seulement tu me fais grâce pour la bêtise que j'ai faite de faire une marche arrière dans un truc comme ça, j'aurais jamais dû faire. D'accord? Non seulement tu me fais grâce de la somme que j'ai dû payer, mais en plus, il y a quelqu'un qui a été touché indirectement. Je sais qu'il y a quelque chose, une semence dans son cœur. Vous voyez, la grâce de Dieu. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que Dieu veut qu'on ait le parfum de Christ. Même dans ces petites choses-là. C'est pas grand-chose. Vous voyez, on a tous eu un accident, etc. Quelqu'un qui crie. C'est pas... Et puis, je vous donne un peu le parfum de Marseille aussi pour que vous ayez un petit peu de... Comme ça, le côté exotique. Mais Dieu veut qu'on soit le parfum de Christ. Et pour ça, parfois, il faut s'humilier. Parfois, il faut demander pardon. Parfois, il faut ne pas répondre. Vous voyez ? Parfois, il faut avaler certaines choses par rapport à ceux qui nous en veulent. Parce que tous ceux qui veulent... Je veux dire, si tu veux marcher avec le Seigneur, et si on veut qu'en tant qu'Église, les gens viennent, c'est que quand on aura passé par la croix... Dans nos relations les uns avec les autres, il y aura quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer dans l'atmosphère. Et les gens vont sentir... Vous savez, les gens, avant d'écouter vos paroles, ils captent l'atmosphère. Tout de suite, ils le sentent. Les non-chrétiens ont plus de discernement que beaucoup de chrétiens. Beaucoup plus. C'est impressionnant. Ils sentent tout de suite. D'accord ? Parce que eux, ils ont soif. Eux, ils souffrent. Eux, ils savent qu'ils sont perdus quelque part. Ou ils ne le savent pas, mais ils sont dans le désespoir. Et donc, dès qu'il y a un peu de lumière, c'est à nous de grandir dans la marche par l'esprit en tant que disciples pour qu'ils puissent vraiment nous dire, toi, tu es un chrétien. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va honorer le Seigneur. Demain, on parlera de la vie de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Comment est-ce que le disciple marche par l'Esprit? Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'onction? Comment ça fonctionne? Et comment est-ce qu'on peut être conduit par Saint-Esprit dans la marche du disciple? Et puis on verra s'il y a d'autres choses. J'ai pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'avoir des questions et des réponses. Tu vois, mais est-ce que vous auriez des questions? On a encore 5 minutes. Et puis demain, on peut avoir un temps de questions si vous voulez. Ça vous dirait qu'on ait un temps de questions demain? Oui? Peut-être qu'on peut. Alors, peut-être que c'est plus stratégique, c'est que là, vous savez qu'on aura des questions demain. Notez-les. Comme ça, demain, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur. Enfin, quand même pas sur tous les sujets, mais sur. Le problème, c'est que le pasteur Gilles ne sera pas là demain. Donc, ce sera plus difficile pour moi de répondre à toutes les questions. Vous connaissez l'histoire de Einstein? Il avait son chauffeur. Il y avait une casquette. Et puis Einstein, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, enfin toutes les images qu'aujourd'hui. Donc les gens dans les universités ne savaient pas à quoi ressemblait Einstein. Et il faisait toujours ses conférences sur la relativité générale avec ses longues équations, etc. Et puis un jour, son chauffeur qui était toujours assis au fond, et puis il connaissait par cœur la conférence parce qu'il avait fait des centaines de fois. Et un jour, il dit à Einstein, il dit, allez chiche, je prends ta place. Tu prends ma casquette de chauffeur, tu sois au fond, et moi je fais la conférence. Einstein dit, allez, ok. Et le gars, il se débrouille, il fait les équations, enfin, il connaît par cœur, donc les mêmes mimiques, tout, il imite tout. Il arrive à la fin, et comme Einstein le faisait, il dit, est-ce que vous avez des questions? Et puis là, il y a un étudiant qui pose une question, évidemment, lui, il ne savait pas répondre. Il dit, écoutez, votre question est tellement facile que je vais demander à mon chauffeur de vous répondre. Voilà. Donc demain, si jamais je ne sais pas quoi vous répondre, je demanderai à mon chauffeur, mais soit à ma femme, soit à quelqu'un. Voilà. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Donc demain, ce serait bien qu'on ait un temps de questions, parce que ça m'aide aussi, ça peut nous aider à aborder des sujets qui n'auraient pas été abordés, ou à débriefer des choses, et puis votre passeur pourra intervenir aussi, et puis comme ça, on a un temps un petit peu d'échange, si vous préférez, par rapport à ces questions. Comment est-ce que l'Église peut avancer? Comment est-ce que je peux avancer? Où sont les obstacles dans ma vie? Concrètement, tu as dit ça, mais ce n'est pas si simple, etc. etc. D'accord? Je vous propose juste qu'on prie, pour terminer. Je vous invite à vous lever. Et je vous propose qu'on fasse cette prière, ensemble, d'alignement. Et que vous puissiez répéter après moi, si vous êtes d'accord, bien sûr, pas mécaniquement, mais cette prière qui dit... Non, l'autre qui est un peu plus résumé. Voilà. Voilà. Hein, mon corps, soumets-toi à mon âme, etc. Ça vous va? Ok. Juste, soit dit en passant, pour ceux qui sont un peu plus théologiens, parfois dans la Bible, l'esprit et l'âme, c'est la même chose. D'accord? Et parfois même le cœur, c'est plus l'esprit. Donc ça dépend des textes, ça dépend des textes. Mais ça nous aide quand même. Parce que dans la vie courante, on ne fait pas de la théologie, on a besoin de choses qui marchent. Oui, je veux dire. Donc, si jamais il y a des gens qui vous disent « Oui, mais cette histoire d'esprit et d'âme, oui, ils ont raison en partie, c'est pas si simple que ça. » Mais le principe reste le même. La marche par l'esprit, c'est quand même biblique. Galates 5, c'est toujours Galates 5. D'accord? Donc, je vous propose de répéter après moi « Mon corps, soumets-toi à mon âme. Mon corps, soumets-toi à mon âme. Mon âme, soumets-toi à mon esprit. Mon âme, soumets-toi à mon esprit. Mon esprit... Soumets-toi au Saint-Esprit du Dieu vivant et à aucun autre. Je choisis d'être quelqu'un qui marche dans l'Esprit de Dieu et je choisis d'être couvert par le sang de Jésus-Christ. Encore une phrase. Seigneur, rappelle-moi chaque fois que je ne suis plus dans l'alignement. Amen. Dieu va vous le rappeler. Vous verrez. Ok, je donne la parole à votre pasteur.
Ah, puisque Jean-Luc a fait des aveux, moi je vais en faire aussi. Quand je l'ai appelé, on a parfois des contacts plus ou moins longs avec quelqu'un. Et avec Jean-Luc, c'était toujours assez rapide. Je dis, waouh! Bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Bon, voilà. Pourquoi? Parce que ces dernières années, j'étais trahi beaucoup par des pasteurs qui venaient et qui ont démoli. Enfin, bon, bref, il faut guérir aussi de ça, mais voilà, c'est arrivé. Et donc, je dis, waouh, ça peut être chaud, hein, bon, etc. Mais en fait, là, je découvre quelque chose qui va plus loin que ce que j'espérais. Vous voyez? Beaucoup plus loin, parce qu'en fait, voilà, l'idée c'était de dire, bon, parce que j'ai un peu suivi les conseils de Gilles, hein, qui m'a vendu Jean-Luc, et parce qu'en fait, on est en train de remettre en place le leadership et tout ça, donc j'ai demandé sur le leadership. Et en fait, on a passé sur le disciple. Et en fait, là, l'enseignement, c'est exactement ce que nous avons besoin. Parce qu'en fait, si on n'est pas disciple, on ne peut pas être leader. Juste pour débugger un peu le terme leader, parce qu'il y a même des pasteurs qui ne veulent pas l'entendre parler, parce que c'est anglo-saxon. Hein. Bon, on peut traduire par meneur, on peut traduire par chef de file, on peut, comme il disait, si on est évangéliste, il faut enseigner 100, 60 ou 30, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont évangélistes ici. Voilà. Donc, c'est quand même un challenge hein, d'entraîner, de mener d'autres personnes dans lesquelles Dieu nous a appelés. Voilà. Donc, il y a quand même une notion d'être témoins d'être des personnes qui entraînent d'autres. Voilà, donc entraîner ces leaders. Donc voilà, on ne va pas rester sur le problème du nom. Mais l'enseignement qui vient de nous être donné, c'est effectivement la base de toute notre vie. Et je remercie aussi encore Gilles pour ce qu'il a fait quand il est venu début janvier, hein, c'est pas si vieux que ça, où justement il a mis en pratique en fait ce qui vient d'être dit concernant la marche par l'esprit, l'alignement, etc. Et on en a les fruits. Hein, on a les fruits. Une église qui a été remise sur pied grâce à cet enseignement. Donc je dis encore merci à Jean-Hugues. Et en fait, ce qu'on va encore entendre demain, qui est le prolongement de un petit peu un apéritif aujourd'hui. Donc, venez tous demain, essayez de motiver des personnes autour de vous qui n'ont pas pu venir cet après-midi, parce que c'est vrai que le samedi, c'est pas toujours évident, il y a les enfants, tout ça. Mais demain, c'est le jour du Seigneur. En principe, on doit mettre de côté ce jour-là. Donc, il n'y a pas d'excuse, sauf si on est malade, qu'on puisse venir cet après-midi, demain après-midi, après le culte, amener un petit truc pour manger. Voilà, on ne va pas faire un grand repas, parce que comme ça, on risque de dormir l'après-midi, à la sieste. Et on va écouter la parole qui va nous être apportée. Tu n'as pas de limite demain pour repartir sur Marseille, tout de suite. Voilà. Donc voilà, on va prendre le temps, on va aussi prendre des questions après. S'il y en a, comme Jean-Hugues vous l'a dit, notez-les déjà dès ce soir pour que demain, vous puissiez repartir vraiment avec des réponses, hein, des réponses pour que l'Église puisse mettre en pratique. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cet enseignement cet après-midi. Nous te prions, Seigneur, de nous garder sur le chemin du retour et de bénir aussi les gens qui sont venus d'Ifto, Seigneur, Gilles et sa sœur, la sœur qui est avec elle, avec lui, Seigneur, que tu les gardes, que tu prépares la journée de demain. Et, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné cet enseignement. Nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.